Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de Point & Think. Aujourd'hui, pour ce nouveau point de vue, nous sommes quatre réunis pour vous parler, le nom est dans le titre de l'épisode, pour vous parler de Dishonored 2. Ce soir, du coup, je suis accompagné de Axel, Stéphane et de Ludic pour sa première dans le point de vue. Ludic, comment tu vas ce soir ?
Ben, ça va super, merci. Merci de m'accepter dans la caste pour le temps d'une soirée. Merci à vous.
Avec plaisir, puis sur un tel jeu, je pense qu'on aura pas mal de choses à dire. Stéphane, comment tu vas ?
Bah écoute, très très content d'être là, très content de pouvoir participer à ce podcast. Dishonored 2, c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un de mes jeux préférés de la PS. On va bien s'amuser aujourd'hui.
Carrément, puis bah, comme on le dira en plus, il y a un petit côté cocorico sympa pour une fois, c'est un des premiers jeux français qu'on traite. Et Axel, comment tu vas ?
Ah, très très bien, en plus on va parler de Dishonored 2, donc...
commencer à massacrer les noms.
Voilà.
Génial. Du coup, voilà, on a fait une super équipe entre nous. On va vous présenter un petit peu le plan de notre épisode, un petit peu le rapport qu'on a au jeu. Mais avant tout, on va se retrouver après ce générique, composé une nouvelle fois par Axel Vapa, expressément pour cet épisode. Et on se retrouve tout de suite après. Annoncer un petit peu le plan de l'épisode, on trouve toujours un peu sympa de vous expliquer un petit peu le rapport que nous on a au jeu. Je vais commencer dans l'ordre dans lequel vous apparaissez à mon écran. Axel, du coup, ce serait quoi le premier souvenir un petit peu que tu as sur Dishonored, le rapport que tu as avec même la franchise en soi dans l'ensemble, les deux?
Alors, pour le coup, Dishonored, je l'ai connu dès son annonce. Genre, le plus, c'était quand? Et c'est vrai que c'était un univers qui m'avait accroché directement au niveau de sa DA. Et puis il y avait eu le trailer avec la reprise de Drunken Sailor, qui était magnifique. Et après, bon, c'était à l'époque, hein, donc j'étais encore jeune. C'est vrai que la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai pas spécialement accroché. Surtout par rapport à son histoire et la construction de sa narration. Mais ça, on y reviendra plus tard sur pourquoi j'ai évolué à ce niveau-là. Mais donc du coup, voilà, c'était une bonne première approche avant de jouer. Quand j'ai joué, j'ai pas aimé, de base. Voilà.
Je pense qu'il a eu cet effet-là sur pas mal de monde. Bah, tant la DA est forte, la proposition est intéressante, ça va être un des nombreux points qu'on va aborder aujourd'hui. Ludic, c'est quoi un petit peu ton rapport à la franchise ?
Moi, ça fait partie vraiment de mes jeux références, vraiment de tous les temps. Je suis déjà un fan de base des licences d'infiltration. Et là, pour moi, on est sur le must, mêlé à l'immersive sim. C'est des jeux que j'adore me relancer, allez, on va dire une fois tous les deux ans minimum. Et ouais, non, vraiment des jeux références. Je suis absolument fan. Au-delà de Dishonored, hein, vraiment de tous les jeux Arkane, la philosophie Arkane, j'ai adoré Prey en 2017. Voilà, j'ai adoré Deathloop. J'ai peut-être adoré un peu moins Redfall, du coup, mais on en parlera certainement un petit peu aussi. Mais voilà, ouais, vraiment des jeux références pour moi.
Bah, comme tu dis, je pense qu'à part Redfall aura son point particulier, mais c'est vrai qu'il y a, il y a toute une philosophie chez Arkane qu'on va aborder ce soir. Stéphane, toi, c'est quoi un petit peu ton rapport avec Dishonored ?
Eh bien, écoute, j'ai découvert le jeu à sa sortie donc en 2016, si je ne dis pas de bêtises, et c'est un jeu auquel j'ai tout de suite accroché. C'était, je pense, le premier immersive sim que je faisais. J'étais jeune à l'époque, j'avais 16 ans. Et au final... C'est un jeu que j'ai pris plaisir à faire de plein de manières différentes. Donc j'ai fait la fameuse run full infiltration, sans tuer personne, etc. J'ai fait la run KO méga élevé à faire à peu près n'importe quoi. Et finalement, c'est un des premiers jeux qui m'a permis d'autant expérimenter des choses, essayer des choses. Alors, je dis pas que j'ai fait des trucs de fou, on va dire, en termes de combinaison de pouvoirs et de capacités. Mais en tout cas, c'est un jeu qui m'a fasciné. J'ai passé un temps fou, par exemple, on en parlera plus tard, mais dans le manoir mécanique, etc. Donc au final, c'est, je pense, un de mes jeux préférés, comme je le disais, de la PlayStation 4, pour tout ce qu'il propose en termes de gameplay.
Non, complètement. Je pense que j'ai un peu ce même rapport-là, au final. C'est pas forcément un de mes top jeux, mais c'est un jeu qui m'a marqué, dans le sens où c'était... Dishonored 2, en tout cas, c'est un moment où je me remettais vraiment à jouer. Il y avait toute une période où j'avais un poil arrêté à... pour me faire d'autres choses. Et je me rappelle de cette proposition de voir la bande-annonce, de voir que c'était un studio français, de voir la grosse DA, et de voir à quel point le jeu te laissait tout faire pour le coup. Je savais pas encore ce que c'était l'immersive sim à ce moment-là. Pareil, on va revenir dessus hein, avec Dishonored. Mais c'était la première fois que je voyais qu'on avait autant de choix dans les approches et qu'on pouvait faire autant de runs. Je crois que c'est le premier jeu où j'ai vraiment pris plaisir à faire des reruns, en tout cas sur le jeu, à explorer toute la gamme chaotique qu'on pouvait avoir. Et par contre, j'y reviens de plus en plus pour la DA. Je sais que j'ai le livre d'art là, qui traîne quelque part dans la bibliothèque de The Art of Dishonored 2 et le 1. C'est une vraie patte, pour le coup, qui est vraiment marquante. Moi, je vais vous en parler un petit peu après, mais moi, je pense que c'est vraiment ça qui va me marquer, qui reste avec moi, en tout cas. Du coup, voilà, ça vous donne un peu une approche de ce qu'on, de pourquoi on parle de ça déjà ce soir, de ce jeu-là. C'est un jeu qui nous a marqué tous les quatre à notre manière. On va décomposer un petit peu le plan de ce qu'on va traiter ce soir. On va commencer en douceur, un petit peu en vous parlant rapidement de l'historique d'Arkane, mais surtout de l'histoire et de l'univers du jeu, de où ça se passe Dishonored 2, en revenant un tout petit peu sur Dishonored pour vous donner vraiment le contexte de la saga. On va revenir un petit peu sur les histoires de choix systématiques qu'Arkane utilise du coup, et à quel point du coup ce dosage un petit peu entre histoire et lore, il est balancé dans le jeu, puis un petit peu la vie qu'on a là-dessus. On va revenir, comme je disais, sur les inspirations artistiques du jeu, avec notamment toute la direction artistique inspirée par Sébastien Mitton. Et on va continuer pour vous parler un petit peu de l'immersive sim, à quel point c'est mis en scène dans le jeu, ce que ça apporte, ce que nous on peut lui reprocher ou pas, pour le coup aussi. On finira par une ouverture un petit peu sur Arkane en 2024, qu'est-ce que c'est, notamment après avoir vu Deathloop, après avoir vu Redfall notamment, et après avoir découvert surtout la bande-annonce de Blade, voir un petit peu ce que nous on en pense et ce que nous on pense vers quoi Arkane peut tendre maintenant. Du coup, sans plus attendre, pour commencer un petit peu avec l'univers, est-ce qu'on peut écouter Ludic un petit peu sur un petit peu un petit historique d'Arkane du coup et de l'historique du jeu.
Avec plaisir. Comme tu disais, je vous fais un petit historique rapide de ce qu'est le studio. Hein, du coup, un studio français fondé en 1999 à Lyon, du coup par Raphaël Colantonio, qui s'est fait connaître du coup ce studio principalement pour Dishonored 1 et Dishonored 2, dont on va parler aujourd'hui, qui est sorti en 2015. En 2010, fait marquant, le studio est quand même racheté par ZeniMax, une filiale de Bethesda. Et en juin 2017, à peu près au moment de la sortie de Prey, Raphaël Colantonio quitte le studio, un studio qu'il avait fondé donc 18 ans auparavant. Il est remplacé par un ponte de Bethesda qui s'appelle Todd Vaughan, au poste de président. Et dernier fait marquant, en 2020, ZeniMax qui est racheté par Microsoft du coup. Gros départ aussi hein, avec celui de Romuald Capron en 2021 qui est remplacé par Dinga Bakaba qui occupe aujourd'hui le poste de directeur du studio. Et en 2022 donc le dernier jeu du studio Redfall, on en parlera un petit peu plus hein, du coup à la fin du podcast. Pour ce qui est de l'histoire en tant que telle du jeu, donc c'est la suite directe de Dishonored 1, ça se passe quelques années après. Emily Caldwin, la fille de Jessamine, est devenue impératrice du coup de l'univers de Dunwall, hein, qui rassemble quatre îles, dont Bristol, l'île de Cerconos, Morlaix et Tivia. Donc elle est impératrice de tout cet univers-là. Son père, Corvo Atano, est toujours donc le protecteur, et le pouvoir est quelque peu balbutiant et va l'être encore plus quand le jour du coup de l'hommage fait à Jessamine Caldwin, la tante de Emily, qui s'appelle Delilah, on va prononcer correctement, débarque dans la salle du trône et fomente un coup d'état avec le duc de Cerconos. Du coup, à ce moment-là, Corvo et Emily sont entourés, et c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire un choix. Soit on joue avec Corvo, soit on joue avec Emily, tout en sachant que le personnage qu'on n'a pas choisi finira pétrifié pour le reste du jeu. À côté de ça, il y a toute une dimension magie en trame de fond dans la licence Dishonored globalement et dans Dishonored 2, avec tout ce qui est le grand vide, l'outsider. Mais je vais peut-être laisser du coup Axel vous en parler un petit peu de ça, parce que je sais que pour lui, c'est vraiment la partie qu'il préfère.
Oui, c'est on voit bien qu'il y a en trame de fond toute une histoire, je dirais même une toile absolument incroyable au niveau de l'outsider et du rapport que les gens ont avec le grand vide. Ou est-ce que finalement c'est pas même au sein du jeu le grand vide n'est pas un paradis. La manière dont le grand vide est traité dans l'histoire, c'est comme nous quand on fait des NDE, donc des expériences de mort imminente. C'est l'après-vie. C'est vrai que dans Dishonored, il y a Dishonored, désolé, j'ai pas commencé. Je ne veux pas commencer. dans Dishonored, il n'y a pas forcément une histoire avec plusieurs religions. Visiblement, il y en a une qui est centrale, à, tout du moins aux deux pays où on va. Donc du coup, la brigade de Dunwall, je ne sais plus c'est quoi le continent qui s'appelle de Dunwall,
Crystal.
Et du coup, l'autre continent, Cerkonos. Il y a ce flou aussi du... Voilà, ils vouent un culte au grand vide, sans pour autant tous être derrière l'outsider. Pour certains, l'outsider est une figure divine. Pour d'autres, c'est une figure de diable, entre guillemets. Voilà, c'est notamment le cas Ah, j'ai perdu le nom des inquisiteurs. Ou est-ce qu'on en voit certains qui prient l'outsider? Donc même au sein de les inquisiteurs, c'est l'Église, hein, qui a au sein de l'univers de Dishonored. Et même là, on voit qu'il y a quand même une certaine scission entre les différents croyants et pratiquants. Et au fur et à mesure qu'on avance dans Dishonored 1 et 2, on peut rencontrer des porteurs qui ont rencontré l'outsider. Donc l'outsider donne à son bon vouloir, visiblement, des pouvoirs à cette personne. On en rencontre, je crois, au minimum deux dans Dishonored 1, donc Dodd et la vieille femme, dont j'ai plus le nom, et dans Dishonored
2... La sorcière.
Ouais, et dans Dishonored 2... Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi Bah, d'ailleurs, dans Dishonored 1, dans le DLC, on voyait déjà la tante de Emily, si je ne m'abuse.
Exact. Oui, je crois qu'elle était... Elle était
une ancienne. Donc, du coup, dans le 2, on rencontre... Le parrain de la criminalité à Cerkonos, j'ai oublié son nom.
Ouais, c'est Paolo.
Paolo, voilà, Paolo, qui visiblement a aussi été marqué pour l'outsider. Et évidemment, du coup.
Delilah,
voilà. Merci. Et vous me rattrapez sur les noms. J'ai du mal à retenir les noms dans ce jeu, je sais pas pourquoi. En plus, ils sont d'une simplicité. Donc voilà. Et c'est vrai que du coup, l'outsider est très très développé, et même le grand vide est très développé. Même si c'est beaucoup sur des suppositions, grâce aux différents documents qu'on peut récupérer dans le jeu, parce que au travers du jeu, on peut récupérer excessivement de documents. Et c'est pour ça que moi, j'ai une préférence d'ailleurs pour regarder le lore de Dishonored que l'histoire principale qu'on suit, que je trouve assez faible dans sa présentation.
Mais pour revenir un peu sur ce que tu disais sur l'Outsider, moi, je ne suis pas hyper au fait du lore autour de l'Outsider. J'ai lu quelques documents, mais j'avoue que j'ai pas forcément tout bien en tête, mais ce qui m'a beaucoup parlé avec le jeu, c'est ce côté où l'Outsider, c'est vraiment une figure, comme tu le disais, c'est un dieu dans cet univers, et ce côté où il joue en fait en donnant sa marque à des porteurs, et ce côté où t'en retrouves quelques-uns, c'est un peu des élus au pouvoir, du coup, qui se retrouvent avec des pouvoirs divins, et après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, en tant que joueur, tu te retrouves dans la peau d'un personnage qui a des pouvoirs divins. Et la question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ces pouvoirs que tu vas décider de faire
Et c'est même au-delà de ça, parce que dans...
Globalement le bien, etc.
Alors, on va spoiler tout de suite, parce que c'est un événement assez majeur dans Dishonored 2, où est-ce que l'Outsider nous raconte qu'il était tué il y a 4000 ans, et qu'avant ça, c'était un homme, et que c'est qu'il a réussi à sortir d'une île qui était dans le grand vide. Et que visiblement aussi, du coup, on apprend aussi à ce moment-là que le grand vide se construit par rapport aux gens. Que les gens ont leurs propres îles, et que si tu réussis à t'en échapper comme Delilah ou l'Outsider, tu peux devenir quasiment omniscient et quasiment une divinité.
Moi, le point important que vous avez signalé pour moi, c'est justement sur le fait à qui l'Outsider donne sa magie ou non. Tu l'as dit un petit peu, Axel, hein, il donne sa magie de façon un petit peu aléatoire. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est lui qui a donné ses pouvoirs à Delilah, qui est la méchante du jeu, mais c'est aussi lui qui va donner ses pouvoirs à Emily, pour combattre cette même Delilah. Donc, il donne un peu son pouvoir au gré sans savoir vraiment ce que les gens vont en faire derrière. Et à côté de ça, bah, comme tu l'as bien dit, oui, l'Outsider, c'est cette espèce de légende urbaine. C'est-à-dire que ceux qui ont sa marque le connaissent, les autres l'aperçoivent en rêve ou ont des visions, ce genre de choses. Et un truc que j'aime bien, dans Dishonored et dans cet univers-là, c'est que souvent, c'est une figure qui apparaît surtout aux gens qui ont une fibre un petit peu artistique. Et donc souvent, quand on a les hôtels de l'Outsider dans le jeu, c'est souvent des peintres ou des artistes ou des sculpteurs. Et je trouve ça intéressant du coup de que cette figure-là apparaisse un petit peu aux gens qui sont entre guillemets un peu plus ouverts d'esprit ou un peu plus voilà un peu plus pas croyants, mais c'est comme l'histoire de l'hypnose. Est-ce que t'acceptes ou t'acceptes pas un petit peu ce délire-là, quoi.
Complètement. J'avais l'impression de sentir presque les influences de ce qu'on retrouve chez Lovecraft pour le coup, littéralement dans l'appel de Cthulhu pour une fois. Ou chez Lovecraft, c'est exactement ce que tu viens de décrire pour le coup aussi. Ceux qui vont avoir des... généralement, les personnages centraux sont des personnages qui sont artistes, qui sont professeurs, qui sont plus du domaine littéraire que scientifique, on va dire. Même s'il y a plein de scientifiques aussi, mais ceux qui sont sujets à des rêves, des cauchemars, etc. sont souvent des artistes. Et t'as ce côté-là avec le culte, littéralement, de Cthulhu, où t'as des gens qui vont justement déifier un petit peu le Cthulhu. Là, on a un petit peu ça, du coup, avec l'Outsider, je trouve. Mais on est pour une fois pas avec une entité, comme vous l'avez dit, elle est vachement nuancée, et ça va vraiment dépendre en face de qui elle est. Mais c'est pas quelqu'un qui méprise les humains, en tout cas quand on la voit, c'est vraiment quelqu'un qui essaie de les comprendre, et qui joue un petit peu avec le compas moral. C'est ça qui va être un peu au cœur de l'immersive sim, hein, pour le coup. Mais on est vraiment, selon les points de vue, l'outsider il va un peu changer. On a par exemple le côté un peu malfaisant quand on est dans l'abbaye du Quidam, avec Dode. On va avoir aussi l'outsider qui est un petit peu maléfique, avec des fois qui donne des pouvoirs aux hommes, des pouvoirs destructeurs aux hommes, qui va leur donner des armes. Donc on a vraiment tout ce truc-là qui va nous dire un petit peu, c'est un discours qui rappelle globalement l'utilisation des armes dans le jeu vidéo, même dans la vie, sur le côté où c'est l'homme qui décide de te tuer avec un pistolet, c'est pas le pistolet qui tue à ta place. Et là c'est un petit peu ça avec l'outsider aussi, il te donne le pouvoir, et c'est tout le truc du jeu en fait, c'est qu'est-ce qu'on va faire du pouvoir. C'est là où je trouve que toute la mythologie de l'outsider est vraiment super intéressante et super bien fichue, c'est très très nuancé.
Et là où je rejoindrais peut-être un petit peu ce que dit Axel pour prolonger ça, c'est que c'est vrai que tout cet aspect-là, le grand vide, l'outsider, tout ce qui est l'aspect fantastique du jeu, est extrêmement élaboré. Tu trouves beaucoup de documents dessus, c'est très écrit, très bien écrit même, hein, les documents, vraiment, l'écriture est magnifique. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, on en parlait avec Axel, peut-être que le scénario principal, lui, ne va pas tutoyer les sommets, quoi. Il n'y a pas de véritable surprise au cours du scénario. Ça reste un scénario assez linéaire. Donc peut-être qu'on est dans un de ces jeux ou une de ces licences où l'univers est peut-être plus puissant encore que le scénario, sans que le scénario soit non plus nul, hein. Le scénario, il est très bien aussi. Il est plaisant à suivre, hein, mais voilà.
Mais disons qu'on est dans une philosophie de jeu où le gameplay est quand même roi globalement, même s'il y a un univers extrêmement développé. Et c'est vrai que du coup, on peut un peu considérer que parfois l'histoire est mise au second plan. Ceci étant dit, ce qui est plaisant avec Arkane, c'est qu'ils font un vrai travail de narration environnementale, ce qui fait qu'au-delà du scénario pur, tu as des éléments de contexte sur la ville, là, en l'occurrence dans Dishonored 2 sur Karnaka. Et donc, je trouve que finalement, tout cet aspect peut-être scénario et narration classique, on va dire, est peut-être un peu en retrait, mais au profit en fait au profit, on va dire, de thématiques et de manières de raconter l'histoire différentes. C'est-à-dire que moi, on parlait un peu du coup du côté fantastique du jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi tout l'aspect scientifique, justement. Je suis un peu un scientifique, donc voilà. C'est-à-dire que tout le rapport à l'huile de baleine, et du coup, l'huile de baleine, c'est un peu notre pétrole à nous, on va dire. Et le fait quand et du coup, il y a tout un propos également sur le gaspillage des ressources, etc. Mais au-delà de ça, l'huile de baleine permet la production d'électricité. Il faut savoir que jamais dans ces échelles-là, mais c'est quelque chose qui a vraiment existé. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en plus, Arkane s'appuie sur des choses réelles, on va dire, et après, évidemment, les modifie et les adapte à son univers pour également raconter quelque chose. Et de ce point de vue-là, Dishonored, il est aussi intéressant parce qu'il mélange du coup une dimension technologique où c'est un monde qui fait des... Justement, où c'est une période où le monde de Dishonored a fait énormément d'avancées technologiques. Et avec en parallèle tout cet aspect fantastique qui permet pour moi d'apporter un vrai poids à cet univers et une vraie crédibilité à tous les niveaux, en fait, l'univers est travaillé. Et pour le coup, je trouve que c'est quelque chose d'assez remarquable qu'on ne voit pas tous les jours dans le jeu vidéo pousser à ce point-là les thématiques, on va dire, religieuses, tout en ayant un aspect scientifique poussé au sens des technologies.
Ah ouais, surtout ce qui est intéressant, c'est que les scientifiques ne s'appellent pas scientifiques dans le jeu, ils s'appellent des philosophes naturels. Je trouve ça intéressant comme terme.
Oui,
très,
oui.
Très intéressant, et tout ce que ça sous-entend, en fait, sur la science, c'est très intéressant.
Ah, complètement. Et on en reparlera un peu sur les inspirations artistiques, mais une des volontés du studio, en tout cas l'équipe créative, C'était vraiment de... Bah, on est dans la scie qui se passerait au, en 1850, on va dire, à peu près. Mais toutes les inspirations, par contre, viennent de villes européennes de 1920. C'est, on en parlait en off, pour le coup, mais c'est qu'on on se disait que le jeu a une grosse inspiration victorienne, un peu steampunk. En tout cas, pour le premier, un peu moins pour le deuxième. Mais il n'y a pas de vapeur dans Dishonored. C'est ça. Du coup, c'était un petit peu le côté, ce qu'on disait, c'est du whale punk ou du whale steampunk ou quoi. C'est, ils ont réussi à créer vraiment un truc assez unique.
Pour rebondir sur ce que tu dis, Axel, ce qui est intéressant avec ce truc de philosophe naturel, c'est qu'en fait, ça reprend un peu en fait, ce qu'étaient les scientifiques, on va dire, dans les années 1700, etc. C'est-à-dire qu'au final, ils n'étaient pas juste scientifiques. Et c'était une époque où en fait, le spectre on va dire, de connaissances était relativement resserré, ce qui permettait aux scientifiques de globalement maîtriser l'ensemble de leur domaine, là où maintenant, justement, avec l'évolution de la science moderne et notamment bon, l'arrivée de tout ce qui est concept de physique quantique, etc., on est arrivé dans des domaines tellement précis scientifiquement dans tous les domaines qu'un scientifique ne peut plus être touche-à-tout comme à une époque où un Newton, par exemple, OK, il fait sa théorie de la gravité, mais à côté, il fait plein d'autres choses et tout, et il pouvait être philosophe, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme le disait Julien, c'est qu'il y a des inspirations de plein de périodes différentes qui sont un peu mélangées, imbriquées ensemble de manière très cohérente.
Je rebondis sur ce que tu dis pour tirer là-dessus. C'est que bah, Sokolov, par exemple, qui est donc un philosophe naturel, le principal du jeu, n'est pas que scientifique, il est peintre aussi. Ça rejoint tout à l'heure ce que je disais tout à l'heure sur la vision des artistes. Donc Sokolov, il est peintre. On a Kirin Jindosh, qui est aussi l'un des autres philosophes naturels du jeu, qui n'est pas juste scientifique, il a aussi ce grand manoir dans lequel il fait toute une exposition des pièces qu'il construit. Et tu sens qu'il a aussi une fibre un petit peu artistique, showman, il a envie de faire un petit peu de spectacle. Donc ça transparaît complètement ce que vous dites dans ces personnages-là.
Bah c'est ça, bah c'est un mélange entre Gatsby et un architecte pour le coup. Et Sokolov, ça peut nous faire une transition vers la partie inspiration artistique. Dans le sens où on a, encore une fois, si on prend le temps en fait, de regarder toutes les peintures qu'on trouve dans le jeu, toutes les peintures de Sokolov, pour rebondir un peu sur le côté lore du coup du jeu qui est extrêmement présent, il y a toutes les peintures en fait, elles nous donnent des indications sur les inspirations du jeu, l'inspiration artistique. Je vais vous faire la minute Julien Pédia. Hein. On aurait Dead Redemption, on parlait du romantisme. Là, c'est vraiment l'inspiration qu'ils ont eue, c'est le réalisme, je pourrais dire, qu'on trouve dans le 19e siècle. Et c'est très cohérent, en plus pour Arkane, parce que c'est un courant qui est né en partie en France et aussi en Grande-Bretagne, donc qui fonctionne avec nous. Et justement, la différence par rapport au romantisme, c'est que là, on a quelque chose qui se caractérise par une quête du réel, vraiment une représentation brute de la vie quotidienne, et avec l'exploration des thèmes sociétaux. Là, on est en plein dedans, pour le coup, avec Dishonored, on va en parler, mais il y a vraiment tout un truc de lutte des classes qui est représenté. Donc vraiment, au niveau architectural, c'était très présent dans le 1, ça continue d'être présent dans le 2. Et surtout, je pense qu'ils ont voulu utiliser ce courant artistique, dans les deux jeux, hein, pour le coup, parce qu'historiquement, le réalisme s'est apparu quasiment au même moment que les photos commençaient à apparaître aussi, vraiment ce milieu du 19e, fin 19e. Un petit peu comme une réponse à justement, on peut proposer autre chose. C'est presque un débat qu'on pourrait avoir maintenant pour le coup avec les IA, hein, l'utilisation des humains par rapport à certaines technologies. Mais il y avait un petit peu ce côté-là, et une vraie volonté de Sébastien Mitton, du coup le directeur artistique des jeux, de Cédric Perra-Vernet, que je prononce bien, qui est un des artistes du jeu, un des artistes phares du jeu. Dans le côté, il voulait faire un jeu réaliste, mais pas photoréaliste. Dans le sens où on reconnaît très bien tout ce qu'on voit, c'est pas un jeu abstrait, c'est pas du cel-shading ou autre. On voit exactement ce qu'ils veulent représenter, mais on a ce style du coup justement très marqué, qui est bien dans le jeu et qui transparaît. On voit vraiment que en fait, toutes leurs inspirations, ils s'en clament. Hein. Ils n'ont pas été cherchés dans le jeu vidéo pour trouver des inspirations artistiques, ils sont vraiment à chercher dans les beaux-arts. Donc je parlais du réalisme, mais il y a vraiment, c'est pas que dans la peinture, ils sont allés chercher aussi du côté de la sculpture, ils sont allés chercher aussi forcément du côté des photographies. Quand on disait que les villes étaient d'inspiration 1920, c'est toute cette recherche architecturale qui a été là. Et en parlant du coup voilà, des thèmes sociétaux, mais il y a tout un truc justement dans la ville, en tout cas de Dishonored 2, qui monte ça en place. S'il y en a un qui veut rebondir un petit peu là-dessus, mais c'est sur tout ce côté lutte sociale qui n'est pas au cœur du jeu, mais qui quand même est là tout le temps pour le coup. Au niveau de la narration environnementale, on le traverse tout le temps.
Au niveau de lutte sociale, bon, de toute façon, c'était déjà développé dans le premier. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, notamment avec la feature de gameplay qui est le cœur, c'est qu'en fait, on peut en plus avoir plein d'informations sur les personnages et sur ce que sont les personnages, etc. Et donc, on voit, on peut entendre, on va dire du coup avec le cœur qui nous parle, toute cette pauvreté, on va dire, de l'univers. En plus, on a effectivement un côté intéressant avec ce contrôle très fort que maintient le duc avec sa milice, qui fait qu'au final, on a vraiment deux mondes différents entre le monde, on va dire, des riches et le monde des pauvres, et il y a une énorme fracture entre les deux.
Justement, moi, dans le 1, je trouvais que c'était développé, mais c'est vrai qu'à l'époque, je l'avais reçu un peu comme... c'est un univers... Bon, moi, c'est de la manière dont je l'ai reçu, hein. Mais j'ai trouvé que c'était montré de manière assez basique. Je ne voyais pas les critiques en fait, à l'époque, de la manière dont c'est montré. Mais là, dans le 2, c'est vrai que c'est encore plus évident. Déjà, avec un personnage comme Sokolov, qui, lui, visiblement, il est courtisé par tous les aristocrates. Mais lui, il n'aime pas les aristocrates. Genre, je me rappelle le dialogue quand il est en bateau avec Emily, où est-ce qu'Emily critique le duc en disant « Ouais, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. » Et que Sokolov la remet en place en disant « Et toi, tu viens d'où, en fait ?» Et puis même au niveau des levels, où est-ce que Poussière-Ville se mange dans des tempêtes de poussière par rapport aux excavations de la mine et des activités des lieux beaucoup plus hauts, donc beaucoup plus riches. Donc c'est vrai que même là, la lutte des classes influe aussi sur le level design. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Enfin, level design. World design et game design, on va dire.
Bah, ça va pour les deux, là, ouais. Et ça revient sur les inspirations.
World design, pour le coup.
Ouais. Et ça revient sur les inspirations qu'ils avaient sur la ville de Kanarka. Je la place rapidement. C'est que les inspirations qu'ils avaient au niveau de la ville, ils voulaient vraiment faire un mélange de La Havane, Mumbai et Barcelone. Donc, vraiment avoir ce côté, pas péninsulaire, pour le coup, mais vraiment, t'es presque dans la Méditerranée. T'es sur un côté, une ville au bord de la mer, mais en même temps où il y a clairement La Havane et Mumbai. On voit clairement le côté sociétal qu'il peut y avoir derrière. C'était vraiment l'idée de retranscrire l'idée que Mumbai, c'était retranscrire Mumbai à l'époque où les colons britanniques étaient encore là pour avoir justement ces différences de classe. Il y avait ce côté un petit peu de mettre en scène l'Eldorado Madness. On est au bout du monde et forcément, comme vous le disiez, pour le coup, il y a ceux qui vont tout avoir et ceux qui vont essayer de tout avoir qui vont vraiment représenter fortement. Désolé, je laisse reprendre.
Et Axel, t'évoquais la lutte des classes. Rien que dans le premier grand niveau ouvert, qui est le niveau 2 de Dishonored 2, on ressent tout de suite ça quand on arrive sur ce port où on va dire il y a toute la classe ouvrière, donc principalement du coup, enfin pas mal de pêcheurs notamment. Et en fait, on voit tout de suite dans les environnements avec ces environnements, ces bâtiments infestés par les mouches de sang du coup, parce qu'il y a aussi une notion d'épidémie dans le jeu, on va dire. Et du coup, c'est vrai que vis-à-vis de la lutte des classes, on voit que forcément, les personnes les plus touchées, c'est globalement les plus pauvres, dans le cas avec des épidémies. Donc, ça renforce... tout est fait dans le jeu pour renforcer, pour moi, cette dimension lutte des classes. Quand il fait attention, il y a plein d'éléments qui sont disséminés dans le jeu qui peuvent t'amener vers cette thématique.
Ça, parce qu'en plus de ça, quand tu arrives à Caracas, le premier PNJ que tu rencontres, enfin tout le monde avec Emily, parce que Emily a un foulard pour cacher son visage, la première PNJ que tu rencontres, la première chose qu'il te dit, c'est « Mais vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin du foulard, la poussière ne descend pas jusqu'en bas. » C'est la première chose qu'il dit. Moi, je vais regarder l'eau est au rouge, elle est immonde, et du coup, c'est rien que ça, en fait, ça, en plus de ça, c'est en plus logique, techniquement, avec le background de Emily, qui est une impératrice... démissionnaire totalement. Elle s'en fout pas du peuple, mais elle aime pas son titre. Elle laisse son titre un peu à l'abandon.
Ouais, ce qui est fantastique avec Karnaka, du coup, pour le prononcer correctement au moins une fois.
Axel, s'il te plaît, attention.
Sur toute cette narration environnementale dont on parle, c'est que tout a été pensé pour respecter une cohérence d'ensemble. Et tu sens que dès qu'ils rajoutent un truc dans leur jeu Arcane, ils se disent « Ok, comment on peut l'ajouter pour que ça s'explique et que ce soit cohérent à un moment ?» Donc vous avez parlé de plein de choses hyper intéressantes, notamment sur les personnages, l'impact du cœur, tout ça, comment ça s'utilise. Mais pour revenir sur l'environnement en tant que tel, Karnaka, donc, il utilise aussi l'huile de baleine, parce que tu le disais, il y a des pêcheurs, il y a un port, tout ça, mais ils ne dépendent pas que de ça. Ça nous a expliqué à un moment, c'est que si l'huile de baleine venait à être épuisée, il pourrait prendre le relais avec des éoliennes. Et c'est pour ça qu'on voit au loin des éoliennes, c'est parce qu'en fait, Karnaka, c'est une espèce de gros goulot d'étranglement où il y a du vent qui passe à balle, et c'est pour ça qu'ils peuvent utiliser les éoliennes pour s'alimenter en énergie. Donc, tout ça est pensé, tout ça est cohérent, et après, il y a ce que vous disiez, donc sur le fait qu'on a la ville haute, en gros, et la ville basse. En gros, la deuxième mission dans laquelle on est, où donc on arrive sur le port, là, vous en parliez un petit peu, c'est là où ils exploitent le bois, et donc il y a une grosse consommation de bois, et ils ont pensé tout ça, en fait, de façon à ce que, donc le port, c'est ceux qui exploitent le bois qui le coupent, et quand on arrive à Poussièreville, bah, on va trouver plein de un peu de cadavres, de squelettes de bois, mais là, pas utilisés, c'est un endroit où il y a les mineurs, du coup, qui bossent pour ceux qui se trouvent au-dessus, et donc quand on arrive à Poussièreville, on ressent bah, le labeur des ouvriers qui subissent, qui se prennent toute la poussière de la ville haute dans la gueule, un peu comme ce qu'on peut avoir dans FF7, par exemple, tu vois, entre la ville haute et la ville basse, tu vois un peu ce contraste-là. Et le contraste, justement, c'est un terme qui est présent dans tout Dishonored, en fait, que ce soit donc cette lutte des classes entre les riches et les pauvres, entre le chaos faible, le chaos fort, tout est histoire presque de contraste dans Dishonored, et c'est assez fascinant.
Et pour en revenir, par contre, ce que tu disais sur l'aspect scientifique et le fait que Karnaca ne dépend pas que de l'huile de baleine, j'aurais bien aimé qu'il pousse la réflexion, on va dire, écologique sur le sujet, au point de considérer, on va dire, vraiment l'huile de baleine comme le pétrole, et c'est-à-dire comme une ressource qu'on ne pourra pas remplacer, et en se disant que les éoliennes, bon, ça sera une source d'énergie, mais qu'elle ne sera pas suffisante, et du coup, apporter une couche en plus d'écologie, ça aurait pu rajouter, je pense, un point intéressant à l'univers.
Mais parce que je crois
peut-être pour dire dans le 3.
De toute façon, je crois que dans le jeu, il y a un document qui explique, enfin, tout du moins qui dit, je crois un journal, qui dit que de toute façon, quand l'huile de baleine sera épuisée, Karnaca sera à nouveau coupée du reste du monde. Il me semble avoir lu un truc comme ça. Mais il y a un truc, par contre, qui m'a... J'avoue qu'il m'a choqué. Enfin, qui m'a choqué. C'est que quand on pique l'argent des gens, ils ne réagissent pas. Genre, les commerçants, moi, j'allais sur leurs étals, je vois leur caisse enregistreuse, je dis qu'est-ce qu'il y avait dedans. Ils ne disaient rien.
Ah, ça dépend. Si, normalement, si tu le fais vraiment devant eux, normalement, ils vont te dénoncer aux gardes. Par contre, si tu arrives accroupi derrière et que tu lui piques ouvertement sa clé ou son argent, s'il te voit pas, tu peux y aller. S'il te voit, normalement, il va te dénoncer. Après, je veux bien te croire que des fois, il peut y avoir des petits...
Ouais,
des petits couacs ou que l'IA, déconne un peu.
Ça dépend un peu des situations. Je suis d'accord avec Axel. Il y a des moments où ça marche pas trop. Mais bon, je pense que tous ces aspects-là, on pourra l'aborder après dans la partie un peu plus gameplay. Moi, je voulais revenir sur quelque chose d'intéressant qu'avait dit Julien. Il parlait du travail de Sébastien Mitton, notamment sur les visages. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Dishonored, c'est qu'en fait, on parlait du fait... tu parlais, Julien, des inspirations d'Arkane et notamment des inspirations... vis-à-vis de la sculpture. Moi, je trouve que les visages, ils ont presque un côté sculptural qui donne une identité très, très forte au jeu. Et je trouve que de ce point de vue-là, ça lui donne un côté assez unique. Il lui permet de se démarquer fortement en plus de son aspect architectural, des bâtiments, etc. C'est en partie aussi grâce au visage, pour moi, qui se démarque avec ses visages très fins et très marqués, avec des formes très, très géométriques, on va dire. Et ouais, moi j'avais envie de saluer ce travail-là parce que c'est vrai que c'est rare de trouver dans des jeux vidéo, on va dire AAA, une patte artistique aussi forte. Et de ce point de vue-là, Arkane, bon, ils ont toujours été très forts, mais avec Dishonored 1 et 2, moi ils étaient à leur apogée de leur art là-dessus, quoi.
Ah, puis ils ont vraiment fait un style à part, là, pour le coup. Bah, comme on disait au début d'épisode, ils ont une philosophie de jeu, pour le coup, mais il y a vraiment le style visuel Arkane. Et comme tu dis, le côté sculpture, pour le coup, c'est le mot est parfait. On le voit bien dans les documentaires de Noclip, ils en ont fait un sur les deux Dishonored et même sur Arkane dans son ensemble. Les sculptures des pas mal de visages existent pour le coup encore, et même l'approche qu'ils ont voulu aborder, bah encore une fois, c'est vraiment une approche artisanale pour le coup, pour éviter de faire en fait toutes les créations d'abord en 3D ou avec des logiciels. Tous les dessins principaux, tous les key art, etc., tous les concepts étaient d'abord faits à la main. Et de la même manière pour les visages, pour le coup, c'était d'abord des sculptures qui ensuite étaient reproduites ou modélisées en 3D avec les logiciels, pour le coup. Mais il y a vraiment ce côté artisanal de vouloir faire à la main, pour le coup. Et c'est ça qu'ils ont réussi à retranscrire jusque dans le jeu. Et je pense que voilà, d'avoir fait ces sculptures, ouais, comme tu disais, le mot est parfaitement choisi, quoi. Les sculptures existent parce qu'ils sont partis de là. Ils sont partis de dessins à la main, justement, pour réussir à faire ce style-là.
Et tu vois, tu m'apprends quelque chose là-dessus. J'avoue que j'étais pas au courant. Et c'est vrai que du coup, bah, on comprend mieux pourquoi. Enfin, effectivement, ça fait le lien avec ce que je dis, et on comprend mieux pourquoi ces visages ont des formes si marquées. Mais du coup, en termes de process de création, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, finalement, on sort des carcans habituels et des méthodes, on va dire, classiques de conception d'un jeu, et finalement, ça permet de faire quelque chose d'assez unique. Donc de ce point de vue-là, au-delà d'avoir une vision artistique, c'est une piste intéressante, on va dire, de se dire comment on peut, à partir d'autres formes d'art, arriver à créer un jeu vidéo.
Non, complet. Puis, puis tu vois que le style, il a influencé. Je ne sais pas à quel point Disco Elysium s'est influencé de ce style-là, mais tu sens un petit peu quand même pas mal d'influences qui reviennent visuellement. Puis pour finir, pour ce qui a influencé en tout cas Dishonored en soi, c'est qu'on a, parce qu'on disait, c'est une ville un peu steampunk, un peu victorienne. Il y a plein de références dans les artbooks au niveau de la technologie, où vraiment tout ce qui est véhicule, tout ce qui est objet technologique, toutes les inspirations viennent des dessins de Tesla et d'Edison, sur toutes les prémices un petit peu de la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc c'est vraiment, c'est ça que j'aime bien, c'est souvent le cas de manière dans les bonnes œuvres artistiques, c'est qu'ils sont vraiment partis d'inspirations très réelles. Ce qu'on disait au niveau de la ville, pour le coup, ils sont partis de vraies photos de ville. Là, pour la technologie, ils sont partis de vrais dessins de technologie ou de concepts qui ont existé, pour à peine extrapoler, en fait. Ils ont réussi à trouver leur twist artistique pour vraiment adapter tout ça. C'est là où je trouve que c'est fort. Puis il y a même un autre courant au final qu'ils évoquent, c'est vraiment dans la partie du Void. T'as tout, c'est brutaliste à non plus pouvoir. Ça rappelle un peu Control, pour le coup, ce qu'on voit dans le jeu. Où c'est, là, d'un seul coup, ça tranche. Là, on parlait d'anguleux. Là, c'est pas tant qu'on est anguleux, mais on est sur des formes qui sont très cubiques, qui sont pointues, qui sont absolument pas bienveillantes, mais ils ont réussi à convoquer un autre style qui est pas tant différent au final, mais qui te marque une vraie rupture sur, en tout cas, pour te situer, si tu es dans le réel, si tu es dans le Void, et qui te dit que clairement, t'es pas dans un endroit qui est réel. Non, les influences artistiques, elles sont vraiment digérées, elles sont vraiment bien réutilisées dans le jeu.
Bah, globalement, Dishonored 2, c'est un festival d'inspiration, je trouve, artistique, si on devait le résumer. Mais on voit que ça a nécessité un travail colossal, et ça nous est confirmé quand on regarde, on va dire, les crédits du jeu, puisqu'il y a plus de 70 artistes qui ont participé à la création du jeu au pic de sa production. Et donc là, on se rend compte, en fait, à quel point la dimension artistique est importante pour le jeu. Parce que je n'ai pas l'effectif total de développeurs, mais à mon avis, ça doit représenter un bon quart. Et ça donne... c'est le genre de jeu typique où tu te dis que ça permet de donner, on va dire, ses lettres de noblesse au jeu vidéo dans tout ce qu'il fait, et notamment dans la dimension artistique.
Ouais, sur le Void, là, sur le grand vide, là, tu parlais de contrôle. Et c'est vrai que, du coup, tu m'y fais penser, mais c'est exactement ça. Quoi. C'est exactement ça, quoi. En termes d'artistique, c'est ces gigantesques formes très cubiques, des formes très, très angulaires. Ça fait beaucoup penser à Control. Et moi, ces scènes-là dans le grand vide où t'as l'Outsider qui apparaît, moi, ça fait partie vraiment des moments marquants du jeu. Pour moi, il n'y en a pas beaucoup. De ces moments où t'arrives dans le grand vide où tu vois l'Outsider, et c'est le moment où je pose ma manette et je kiffe la voix de l'Outsider, juste son faciès, comment il est. Pour moi, ouais, vraiment, ça représente les moments très forts du jeu, et c'est souvent des gros moments aussi de révélation scénaristique, parce que c'est le moment où l'Outsider, il te dit, voilà comment ça s'est passé un petit peu dans le passé. Il n'y a pas trop d'autres moments où le jeu peut faire ça, à part un niveau en particulier qu'on évoquera un peu après. Donc voilà, ça rejoint aussi, vous parliez d'un studio qui artistiquement est assez unique, sort un peu du lot, et aussi un studio qui sort du lot, je trouve, dans sa manière de raconter son histoire. On en a parlé rapidement, mais cette narration environnementale, mais aussi, alors moi ça me parle particulièrement parce que je suis très jeu From Software et que c'est beaucoup raconté comme ça. C'est bon, j'ai calé From Software dans le podcast, je suis content. mais du coup, il y a beaucoup énormément de choses qui sont racontées via les documents qu'on trouve. On en parlait hier en off, je sais plus qui c'est qui disait combien de bouquins en tout il y avait dans
l'univers. C'était sur le premier. Alors, il y a plus de 100 livres qui sont répartis en différentes séries de bouquins, on va dire.
100 bouquins, ouais, c'est assez, assez hallucinant. Et il y a plein d'autres choses, en fait, qui racontent l'histoire. Il y a aussi les dialogues que notre personnage va avoir avec d'autres, les dialogues des PNJ entre eux, puisqu'il y a une mécanique assez importante, c'est celle de la longue vue, qui te permet de zoomer sur les dialogues de personnages. Et donc, quand tu zoomes sur les dialogues de personnages, tu les entends plus distinctement. Donc, ça peut te donner des indices sur la mission en cours, mais ça peut aussi te raconter un petit peu de l'histoire du jeu globalement. Et il y a la mécanique du cœur, dont Stéphane parlait tout à l'heure, qui fait que quand tu pointes le cœur sur une personne, Jessamine te raconte un peu son passé, ou si tu le fais sans pointer quelqu'un, elle va te raconter du coup l'histoire un petit peu du lieu, elle va aussi réagir à tes actions du coup dans le jeu. Ça, on va en parler un petit peu dans la prochaine partie.
Non, complètement. Je pense qu'on peut doucement y glisser. De toute façon, c'est un peu le cœur du jeu. On va attaquer la partie immersive sim. Il me semble que Stéphane, tu avais trouvé une définition qui était parfaite, en tout cas, pour introduire un petit peu cette notion.
Ouais, c'est ça. On va pouvoir partir de ça pour discuter du genre. Donc, je vais vous la lire. Un immersive sim, c'est un genre de jeu vidéo qui met l'accent sur les choix du joueur. Sa principale caractéristique repose sur l'utilisation de systèmes de simulation qui répondent à une variété d'actions du joueur, combinées à un large éventail de capacités. Cela permet de mettre en place des solutions créatives et variées comprises par le jeu, impliquant des situations de gameplay émergent, dépassant le cadre de ce qui avait été initialement conçu par les développeurs. Moi, cette définition, j'ajouterais également, on en pourra en reparler, mais le fait que les possibilités que t'offre le jeu sont liées, on va dire, à l'histoire, puisque tes actions auront un impact sur l'univers du jeu et sur le monde de Dishonored. Mais donc, pour revenir sur la définition, le premier point très important qu'il faut pour moi noter, c'est tout ce qui est relatif à cet éventail en fait, de possibilités que donne le jeu, très varié, que ça soit, donc on a tous les pouvoirs, donc déjà on a tous les pouvoirs d'Emily, mais en plus on a des variations avec les pouvoirs de Corvo et quelques variations qui permettent vraiment en plus de donner des identités aux deux personnages. Emily avec ses sortes de bras qui s'allongent, notamment avec le pouvoir qui te permet de te téléporter, c'est très différent de Corvo qui se téléporte en fait. Et donc en plus de ça, on a également pas mal de gadgets, des outils, des armes, donc un pistolet, des grenades, etc. Ce qui permet, en plus avec tous les systèmes que propose le jeu, de faire plein de combinaisons. Alors au début, quand on n'est pas habitué au genre, on joue de manière un peu classique, mais c'est pas forcément très grave parce qu'en fait très vite on se rend compte qu'on peut faire des combinaisons simples pour arriver à nos fins et à avancer dans les niveaux. Et donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est un genre qui me parle beaucoup parce que c'est dans ces jeux-là en fait qu'on peut le plus expérimenter et se débrouiller par nous-mêmes, on va dire, dans le gameplay.
Cette notion de choix dont tu as parlé, pour moi, elle est indispensable dans la définition de l'immersive sim. Moi, on en a parlé un petit peu en off aussi. Moi, il y a trois choses vraiment que je mettrais dans l'immersive sim. L'aspect bac à sable, qui fait que tu peux un petit peu faire ce que tu veux et que tu peux même faire des choses que les développeurs n'avaient pas forcément prévues à la base. Cette notion de choix, de comment tu peux jouer, plutôt infiltration, plutôt bourrin, plutôt utiliser tel ou tel pouvoir. Et cette notion d'impact sur le monde qui t'entoure. C'est-à-dire que toutes les actions que tu vas faire vont avoir un impact, et ça rejoint un petit peu cette idée de cohérence dont on parlait tout à l'heure avec la narration environnementale. Bon, on la retrouve aussi dans ce système de chaos faible, chaos fort. Donc si tu joues plutôt de façon non létale, que tu assommes les gardes, que tu restes plutôt discret, tu vas être sur un chaos faible. Si tu es très bourrin, que tu tues les gardes, que tu te montres violent, tu vas être plutôt sur un chaos fort. Ça va forcément impacter sur les différentes issues du jeu, mais pas que, parce que tu vas le voir directement, cet impact. C'est-à-dire que si t'es en chaos fort, tu vas avoir plus de mouches de sang, plus de rats. Emily, ça, je m'en suis rendu compte aussi, parce que j'avais jamais fait une partie en chaos fort. En le refaisant récemment, là, j'ai fait vraiment bourrin, en tuant tout le monde, vraiment le plus violent possible. Et Emily a des réactions associées à ça. C'est-à-dire qu'en tuant un garde, si t'es en chaos fort, elle va dire, par exemple, ah, ben, j'aurais aimé trancher la gorge de Delilah à la place de ce garde, quoi. Et c'est toutes ces petites choses-là, et même la manière dont les gens vont réagir vis-à-vis de toi va être différent. Si t'es quelqu'un de très violent, bah Sokolov, il va avoir quelques lignes de dialogue en te disant « Ah, ça va, t'as bien tué suffisamment de gardes. » Voilà, il y a Megan Foster aussi sur le bateau qui peut avoir ce genre de réflexion. Donc tout ça, donc ça fait partie de ce qu'on disait, donc cet aspect immersive sim, et à une cohérence d'ensemble que moi je trouve fascinante, quoi. C'est vraiment la partie du jeu qui me sidère le plus, de réussir à garder voilà cette cohérence d'ensemble, que chaque chose que tu fais a un impact et ça se voit directement en jeu, quoi.
Non, complètement. Et c'est pas forcément un genre que j'aime faire souvent, l'immersive sim. Autant il y a vraiment le côté fascinant de se dire, bah, dans le jeu vidéo, surtout dans un jeu vidéo qui se passe en trois dimensions, même si c'est à la première personne, on a le contrôle total de la caméra. Tu dis que les développeurs doivent prévoir absolument tout ce que les joueurs peuvent faire, en soit en termes de dialogue, en termes de choix et tout. Et là, l'immersive sim avec Dishonored 2, c'est vraiment pousser ça à l'extrême de... C'est en termes de thèse de tout ce qu'ils peuvent faire, c'est te donner plein d'options, du coup, bah, comme tu disais, de choses à faire. Ça se reflète parfaitement dans le level design, où t'as plein de moments, au final, où tu peux préparer, au final, presque, comment ça s'appelle, ce que tu as à faire, ta mission. Tu peux explorer, tu peux regarder toutes les options que tu vas avoir... Je crois que c'est toi, Ludic, qui mentionnait ça cet après-midi, qu'il y a même un niveau qu'on peut complètement zapper, au final, si on trouve... Ouais. Qu'on peut esquiver complètement.
Bah, c'est le niveau de Poussièreville, juste avant le niveau déchirure, du coup. T'arrives donc dans cette ville, on en parlait tout à l'heure, hein, cette ville qui subit des tempêtes de poussière, où c'est vraiment la basse ville, les mineurs, les gens très pauvres. Et donc tu dois, y a une porte avec une énigme de Kirin Jindosh, que tu peux résoudre pour accéder au niveau déchirure et donc au manoir de Aramis Tilton derrière. Et t'as plusieurs façons de gérer ça. Donc tu peux soit aller voir par exemple les Hurleurs, la faction des Hurleurs et donc Paolo, le personnage marqué par l'Outsider dont Axel parlait tout à l'heure. Et donc lui, il va te permettre d'accéder au manoir, mais tu peux aller de l'autre côté, c'est-à-dire vers ceux de l'abbaye qui ne sont pas du tout friands de l'Outsider. Et il suffit de ramener le corps de l'un à l'autre pour gagner le cœur de telle ou telle faction. Tu peux aussi aller voir un mec, je crois qu'il s'appelle Durant, qui va t'aider à, du coup, qui va te craquer le code de la porte, quoi, quelque chose comme ça. Ou tu peux, et c'est ce que j'ai fait, du coup, sur ma nouvelle run, là, que j'avais jamais fait, tu peux passer, comme moi, 1h30 à résoudre l'énigme de la porte de Jindosh. Et du coup, si tu fais ça, bah, tu zappes carrément un niveau entier. Tu zappes le niveau Poussière-Ville. Donc, c'est à la fois bien et pas bien, parce que du coup, tu loupes un petit peu les ressources qu'il y a dans le niveau, si t'y vas pas. Mais je trouve que c'est quand même un choix très fort de se dire, ah bon, on va quand même donner une possibilité aux joueurs de zapper carrément un niveau du jeu entier. C'est très fort. Et ça rejoint aussi un truc que disait Axel, dont on parlait en off, c'est qu'ils ont cette volonté de proposer pour chaque niveau un truc foncièrement différent. C'est-à-dire qu'il y a presque un gimmick dans chaque niveau, un nouveau truc dans chaque niveau. Tu vas avoir le niveau avec les sorcières qui vont complètement changer le gameplay parce qu'elles peuvent se téléporter. T'as le niveau avec les soldats mécaniques qui peuvent voir derrière eux. Et donc, le fait d'avoir un truc qui peut voir derrière lui, ça change forcément tout au niveau du gameplay. T'as ce niveau avec donc l'énigme. T'as le niveau déchirure où tu vas pouvoir revenir dans le passé. Il y a vraiment ce fait de vouloir se renouveler à chaque niveau et trouver des idées aussi brillantes, c'est assez impressionnant.
Ça apporte un niveau de diversité dans le gameplay qui est assez phénoménal, en fait. Quand au départ, tu as déjà autant de possibilités et qu'en plus, tu te permets à chaque niveau d'apporter une touche originale, ça permet vraiment d'avoir un tout qui est extrêmement puissant d'un point de vue gameplay. Et ouais, pour rebondir sur ce que vous disiez, moi, ce que je trouve aussi unique, c'est que chaque niveau, en fait, a ses particularités au-delà des particularités de gameplay. Le manoir mécanique, il y a un vrai concept, on va dire, architectural, par exemple. Le niveau déchirure aussi, du coup, ça donne ça refait le lien un peu avec l'aspect artistique, mais en plus, ouais, le level design, en fait, est travaillé de manière très différente, enfin, pas forcément très différente, mais donne des possibilités différentes à chaque niveau. Par exemple, moi, je pense au niveau 2, où finalement, en fait, chaque fois que j'avais fait le jeu jusqu'à présent, dans ce second niveau, je passais, on va dire, à un moment donné, il y a une porte, on va dire, électrique, et moi, je sais pas pourquoi, je voulais absolument toujours passer par cette porte. Alors qu'en fait, je viens de me rendre compte sur ma précédente run qu'en explorant une maison que j'avais dû explorer 15 fois, en fait, on pouvait passer de l'autre côté simplement. Et bon, j'en ai peut-être pas souvenir, hein, mais il me semble que je me suis jamais servi de ça, que du coup, je faisais toujours l'effort de passer proprement à cet endroit-là, quoi. Donc, et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu vas pouvoir rencontrer des personnages clés qui vont te permettre, bah, tu l'évoquais avec ce niveau avec les deux factions qui s'opposent et tu dois ramener le cadavre de l'autre, où au final, tu as aussi des choix, des choix qui sont faits d'un point de vue histoire dans le jeu, mais qui du coup vont t'offrir des possibilités et des ouvertures. Mais ça, c'est les solutions, on va dire, évidentes des niveaux que le jeu te présente, mais souvent, il y a aussi des possibilités cachées que c'est à toi, en fouillant bien le niveau, de découvrir pour arriver à te débrouiller par toi-même pour finir le niveau.
Ouais, les choses qu'on peut peut-être préciser qui est quand même intéressante, c'est que sur cette ouverture des niveaux, c'est que la majorité des gens qui bossent chez Arkane sont des gens qui viennent de TIFF, de Deus Ex, qui ont aussi bossé sur BioShock, donc ils sont imprégnés de ce gameplay-là, de cette ouverture, de donner le choix au joueur, de lui donner plein de possibilités. Mine de rien, on peut le dire aussi, il y a, je crois, 9 niveaux dans le jeu. C'est pas énorme en soi, mais chaque niveau peut durer 2 heures. Donc ouais, c'est quand même que ça représente des zones vraiment assez immenses. Hein.
Chose qu'on n'a pas dit, mais qui est peut-être évident, mais en termes de level design, les jeux Arkane, enfin en tout cas les Dishonored, c'est une succession de niveaux ouverts. Mais c'est des niveaux, c'est des niveaux uniques, mais qui sont extrêmement ouverts dedans. Et donc c'est pour ça que tu as autant de possibilités. Ils sont très vastes au final, une fois que tu rentres dans un niveau. Et comme le dit Ludic, tu peux vraiment y passer beaucoup de temps si tu veux tout explorer, tout fouiller. Et rajoute à cela le fait que tu as des choix à faire. Ça t'offre une rejouabilité qui, en plus, est assez énorme. Parce que, premièrement, tu passeras à côté d'éléments. Et deuxièmement, tu pourras justement tester d'autres manières de faire en revenant sur le jeu. Et ça, c'est quelque chose ouais. Qui est fondamental dans l'immersive sim. C'est le fait qu'en fait, finalement, tu peux refaire des runs et chaque fois, ça sera unique en fonction de ce que tu as envie de faire. Une particularité de l'immersive sim aussi, c'est que c'est des jeux qui ont une forte rejouabilité.
Ah, cette dimension rejouabilité, elle est inhérente à Dishonored. Et c'est ce que disait Julien tout à l'heure. Moi, c'est un des rares jeux qui, une fois que je l'ai fini, j'ai immédiatement envie de me relancer une run. Tu vois, pour retenter différemment, genre, soit prendre Corvo, soit prendre Emily, soit tester d'autres pouvoirs, soit jouer plutôt létal ou non létal. Et c'est ce qui fait. C'est presque, en fait, presque un peu un build, en fait. Tu fais un build sur ta première run, tu crées un petit peu comment se comporte ton personnage, est-ce qu'il est plutôt comme ci, comme ça. Et sur une deuxième run, bah, t'as envie de tester un build un petit peu différent. C'est cette dynamique-là, quoi. Et c'est ce qui fait que le jeu, il a une forte dimension rejouabilité, mais aussi une forte dimension speedrun. C'est un jeu qui est beaucoup speedrunné. Bah parce que forcément, qui dit bac à sable, qui dit possibilité dans tous les sens, dit aussi optimisation de comment tu peux aller vite dans les niveaux. Il y a aussi toute une dimension scoring, hein, parce que quand tu finis une mission, tu as un espèce de tableau qui apparaît, qui te dit combien de gardes t'as tué, combien de temps ça t'a pris. Tu as un truc à cocher qui est le mode fantomatique, qui fait que tu as fait tout un niveau sans te faire pairer. T'as aussi l'encoche non létale où tu tues personne. Et donc ça, c'est des défis en plus qui vont se rajouter sur des deuxièmes runs. Ah ben j'ai envie de faire fantomatique du début à la fin, un peu comme ce qu'on peut avoir dans un Splinter Cell à l'époque. Donc ouais, c'est vraiment, comme tu disais, cet aspect rejouabilité, un des points forts, si ce n'est l'un des principaux points forts du jeu. Ouais.
C'est ça, puis c'est que t'as envie de découvrir un peu tous les embranchements. C'est qu'on est, on n'est pas sur du Detroit Become Human où tu vois à la fin du niveau ce que t'aurais pu faire, ne pas faire, etc. pour voir du coup les différentes fins. Mais comme je disais, c'est que 9 niveaux, mais ne serait-ce qu'avec tous les choix qu'on a, tu peux être chaotique, hardcore au début pour essayer après de descendre au fur et à mesure, parce que plus tu vas être chaotique, moins tu vas pouvoir faire d'infiltration. Et il y avait un côté c'était dans le documentaire de Noclip, t'as Daniel Todd qui était campaign designer à ce moment-là sur le jeu. Il mentionne vraiment, en fait, pour le coup, que ce qu'il voulait faire sur les premiers niveaux, c'était de montrer, bah, comme tu disais Stéphane, le chemin le plus simple, en tout cas, pour aller finir ta mission, en te montrant bien quand même qu'il y avait des chemins vachement plus compliqués, vachement plus hardcore, mais t'as quand même un moyen de les esquiver. Par contre, plus le jeu va avancer, plus le chemin hardcore, ça va être le chemin le plus facile au final. Donc il y a vraiment ce côté-là de rejouabilité, même qu'eux avaient en tête de « il y a une liberté folle, mais par contre, plus ça va aller, plus on va te montrer aussi comment tu dois jouer avec le jeu. » Pas juste dire « si je suis bourrin tout du long, ça va marcher. » Non, voilà, comme tu disais, tu vas avoir des mouches de sang qui vont t'empêcher de faire des infiltrations par moment. T'as vraiment une granularité assez impressionnante ouais, au niveau de cette rejouabilité.
Et un point hyper intéressant, et mine de rien, tu vois pas dans beaucoup de jeux, c'est un jeu Dishonored dans lequel tu dois penser ton entrée, mais ta sortie. C'est-à-dire que quand tu complètes ton objectif, t'as pas écran noir, fin de la mission, bien joué, mission réussie, comme dans les trois quarts des jeux aujourd'hui. Non. Quand tu as fait ton objectif, bah maintenant, il faut que tu fasses le chemin en sens inverse. Et donc, forcément, bah, si t'as tué tous les gardes sur ton chemin, le chemin inverse va être beaucoup plus simple. Par contre, si t'as pris le parti d'être en fantomatique et de toucher aucun garde, forcément, le chemin retour va être plus dur. Surtout que des fois, comme dans le niveau du manoir de Jindosh, par exemple, il faut que tu te ramènes avec le corps de Sokolov sur le dos. Donc ça rajoute une difficulté supplémentaire. Donc moi, ça j'aime beaucoup aussi. Ça rajoute encore ce que je disais, à cette cohérence. Tu penses à ton entrée, il faut que tu penses à ta sortie, que tu reviennes aussi sur le bateau. Voilà, ça c'est fabuleux, je trouve.
Un point que tu évoquais, Ludic, sur le fait de pouvoir faire le choix en fait de faire une run d'une certaine manière. Il y a cependant un petit point, on va dire, de friction moi que j'ai avec le jeu, c'est le fait qu'en fait le jeu propose une option de sauvegarde rapide. Et en fait, globalement, si tu veux faire une run complètement fantomatique, vu que forcément tu vas être amené à faire des erreurs et à te faire repérer, tu vas avoir cette tendance à recharger ta sauvegarde jusqu'à arriver à faire ton action en fantomatique. Et du coup, moi, à titre personnel, c'est pas une manière de jouer que je conseillerais, même si je l'ai fait pour faire ma run en fantomatique, en tout cas dans un premier temps, parce que une des grandes forces du jeu, en fait, c'est la capacité aussi que quand tu te retrouves dans des situations imprévues, t'as tous les outils à ta disposition pour t'en sortir et arriver quand même à bah, soit fuir, soit quand même combattre les ennemis, soit utiliser tes pouvoirs pour un peu les embrouiller et les perdre un peu dans tous les sens, ou tes outils. Et au final, c'est une manière de jouer qui est très puissante parce qu'en fait, tu te retrouves dans une situation où cette improvisation se rajoute en plus à tout ce qu'on a dit avant. Et du coup, ça donne des moments assez forts en jeu. Où on est vraiment très très impliqué du coup dans notre expérience, parce que justement, au départ, on doit faire attention à tout, on doit être hyper concentré. C'est un jeu où t'as pas de vision d'aigle ou quelque chose comme ça, quoi. Et du coup, tu dois être déjà extrêmement attentif, mais en plus, quand tu te fais repérer, du coup, ça implique des temps, une réactivité assez importante. Et au final, plus tu joues au jeu, plus ta réactivité augmente, plus tu sais ce qu'il faut faire, plus tu maîtrises le schéma de contrôle, etc. Et au final, c'est un jeu qui est assez facile, entre guillemets, à prendre en main quand même, globalement. Mais par contre, pour arriver à avoir un niveau de maîtrise qui te permet, en fait, d'être en plein contrôle de tes actions, et ben, ça nécessite un sacré apprentissage, et c'est quelque chose qui est aussi très fort dans Dishonored 2.
Alors, pour le coup, pour moi, la sauvegarde rapide est un élément inhérent à l'immersive sim, parce que pouvoir faire des sauvegardes rapides, ça permet de pouvoir expérimenter de manière très facilement et très rapidement. Je l'ai fait plein de fois, par exemple, parce que moi, du coup, la mission à Poussièreville, j'ai décidé d'exiler Paolo et l'autre, là, le grand inquisiteur. Là. Et pour choper Paolo, qui était dans son bar, j'ai expérimenté. Notamment, j'ai fait un domino. Donc, le domino, c'est un pouvoir qui permet de relier les personnages les uns aux autres. Et quand on fait une action sur un personnage, ça va se répercuter sur tous les autres. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait un domino avec Paolo, j'ai lancé une bouteille dans la tête, ça a assommé tout le monde, et le dernier, je suis dessus. Depuis le haut, j'étais pas satisfait, j'ai rechargé ma sauvegarde rapide, j'ai testé d'autres trucs et j'ai fait ça pendant au moins une demi-heure, tu vois, pour tester un peu les configurations que je pourrais avoir. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas forcément gênant, parce que l'immersive sim est un genre qui demande, qui invite à recommencer plusieurs fois un truc.
Ouais, je comprends cet aspect expérimentation, mais si tu veux, quand t'es. Moi, ce que j'aime du coup où tu dois un peu improviser cette improvisation qu'il y a, et du coup je trouve que c'est un choix du coup que je comprends par rapport à ce que tu dis, le fait de pouvoir expérimenter rapidement, etc. Mais en première approche, du coup, je trouve que c'est une option qui est trop forte et qui te permet qui en fait pardonne l'erreur, alors que justement l'erreur pourrait pleinement faire partie, on va dire, de l'apprentissage du joueur. Maîtriser les systèmes, là, il y a un côté un peu facile à pouvoir recharger, même si je comprends le choix. Hein.
Après, je trouve qu'il y a une certaine frustration, parce que si je prends l'exemple de Dishonored qui ne te punit pas pour faire ça, mais si je prends un autre jeu qui, je sais pas même pas si c'est un immersive sim, mais je trouve qu'il a beaucoup d'aspects, c'est MGS5, enfin MGSV, ça va faire rager Stéphane, non, ça va, il n'y arrive pas,
je vais pas dire 5, mais bon.
voilà, c'est MGS-là. Qui demande aussi une certaine improvisation et expérimentation de la part du joueur. Quand on recharge, ça va s'impacter sur le score du joueur. Et ça, je trouve ça dommage aussi dans ce jeu-là, que ça soit punitif d'expérimenter. Ce qui n'est pas le cas dans Dishonored. Et c'est ça que j'aime bien dans Dishonored.
Là où moi je serais d'accord avec Stephen, c'est que sur une première run, bon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de jouer, hein, mais sur une première run, je conseillerais à quelqu'un de jouer, comme dit Stephen, avec les imprévus, quoi. C'est-à-dire que tu t'es fait repérer, bon, bah, c'est peut-être l'occasion de voir un petit peu ce que donne le système de combat, ce que tu peux faire avec tes mines, avec tes grenades, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à faire aussi. Après, je trouve que t'as raison, hein, Axel, hein, pour l'aspect immersive sim, expérimentation, et dans le but de masteriser le jeu. Cette recharge rapide, elle est indispensable. Et moi, là, sur la automatique, je l'utilise tout le temps. Et je la trouve pas très gênante, quoi. Il y a un système de sauvegarde rapide, chargement rapide, qui, je trouve, fonctionne plutôt bien. T'as plein de slots de sauvegarde. Donc, si tu veux récupérer une save qui est un petit peu plus vieille, tu peux. C'est super bien foutu. Donc, non, franchement, moi, ça, je trouve que c'est un aspect qui est quand même assez maîtrisé, quoi.
D'un point de vue conception, ça marche très bien. Et puis, ouais, vous l'évoquiez, je nuance un peu mon propos, mais. Effectivement, quand j'ai fait ma run fantomatique, ça serait alors déjà très difficile, du coup, et je pense très frustrant. Et surtout, ça te permet aussi, dans un style de jeu, d'expérimenter différentes manières, on va dire, d'arriver à ton objectif. Donc typiquement, tu peux être dans une situation où les gardes en fantomatique, tu peux, par exemple, tous les tuer en fantomatique, ou sinon tous les esquiver. C'est deux méthodes de jouer... jouer en mode fantôme, on va dire. Et en plus de ça, si en fait il n'y avait pas la sauvegarde rapide, on oserait peut-être moins exploiter les systèmes, et donc ça amènerait au fait, au final, qu'on joue de manière un peu trop classique, par peur, on va dire, mais de ne pas arriver à notre but, on va dire, dans une run. Donc oui, je comprends les deux aspects, mais pour rejoindre ce que disait Ludic, moi c'est plus dans un aspect premier run, on va dire découverte du jeu, que je trouve très intéressant en fait de presque s'interdire à la sauvegarde rapide pour vraiment pousser le truc jusqu'au bout.
Et puis surtout, on l'a dit, on est sur un immersive sim, et donc le comportement des gardes n'est pas toujours prévisible en fait. C'est-à-dire que tu sais pas pourquoi sur une sauvegarde il va te courir dessus, sur une autre il va prendre le temps, il va se bloquer dans un mur. Et donc de ce côté-là, dans le sens où tu peux pas prévoir à 100% le comportement d'un garde, bah, il vaut mieux quand même avoir ce rechargement rapide pour, comme disait Axel, ne pas avoir cette frustration d'avoir eu entre guillemets une mauvaise RNG quoi.
Sachant qu'en plus l'aspect au-delà de l'aspect aléatoire du comportement des gardes, il y a un peu des soucis aussi sur l'IA par moment.
Ouais,
je sais pas à quel point c'est volontaire ou pas, mais il y a quand même des moments où l'IA est un peu buggée et du coup ça permet aussi d'atténuer un peu ces problématiques là.
Et ça s'est d'ailleurs bien ressenti par la suite dans Deathloop, hein, cette histoire.
Oui, bon, on aura l'occasion d'en parler.
Après, c'est bien d'en parler.
C'est vrai que j'ai pas eu de problème d'IA, ouais, surtout des bugs de chargement. Ou est-ce que bah vu que je connaissais déjà Dishonored, du coup j'ai allègrement utilisé la sauvegarde rapide. Et c'est vrai que des fois, je faisais des changements rapides, les gardes qui étaient alertés à travers les murs. Ça, j'ai pas compris. J'ai vu beaucoup de fois ce bug-là, en changement.
Ça peut être les sons aussi. Hein. Des fois, ça peut être aussi assez capricieux sur les sons. Il suffit que t'aies marché pendant 2 secondes, il t'a entendu, ouais. Il débarque à fond. Je sais que ça m'arrive souvent.
C'est vrai.
Pour revenir en deux mots sur l'impact de nos choix sur le monde, moi, j'aurais un autre point de nuance à apporter quand même. C'est sur le fait qu'au final, vu que l'ensemble de tes actions, on va dire, qui conduisent à un chaos fort, conduisent du coup à un monde globalement entre guillemets en ruine, quoi, c'est-à-dire où de moins en moins de choses vont et où le monde est de plus en plus impacté négativement, on va dire, par tes actions. Et moi, je trouve que ça pousse naturellement à privilégier l'approche non létale. Alors, ça va avec le fait que c'est un jeu d'infiltration, mais du coup, moralement, au final, on est quand même poussé dans cette direction et ça reste un choix. Et moi, j'aurais peut-être apprécié que ça soit plus nuancé de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, en gros, le fait, après, c'est une philosophie, mais que le fait dans le jeu de tuer soit, on va dire, en même temps, un meurtre, c'est jamais bien, mais que ça soit, ce compas moral, on va dire, soit un peu plus nuancé.
Je comprends ce que tu veux dire, mais moi, je n'arrive pas à leur en vouloir, ce côté un petit peu binaire du compas moral, comme tu dis, tant chaque côté a des implications à tous les niveaux. Et on en a parlé. Moi, je pense que s'il y avait 4-5 nuances différentes de chaos, ce serait beaucoup plus compliqué à gérer les différents dialogues d'Emily, les différentes cinématiques, parce que les cinématiques changent aussi, hein, en fonction du chaos. Donc, moi, c'est vrai que là-dessus, j'arrive pas trop à leur reprocher, parce que je trouve qu'il y a déjà un taf tellement monstrueux sur l'impact de nos choix et comment ça se ressent. C'est pas le point qui me dérange le plus.
Ouais, tout à fait. Bah, ce serait peut-être, on va dire, peut-être un axe qui pourrait être poussé dans un jeu, quitte à faire un peu moins sur d'autres aspects. Hein. Mais typiquement, c'est le genre de choses où le jeu est peut-être pas parfait, mais il y a tellement. En fait, le jeu est tellement riche à tous les niveaux. On a parlé de l'aspect artistique, là, on parle de l'aspect gameplay où on voit, il y a une profondeur qui est hallucinante, on va dire, dans les systèmes. Et le jeu peut pas tout faire. Globalement, c'est compréhensible. Et c'est pour ça, par exemple, que sur l'aspect technique, il est peut-être moins à la pointe de la technologie que certains jeux. Ce qui n'est pas grave en soi, parce que le jeu compense par autre chose. Et au final, c'est pas ce qu'on retient du jeu. Et c'est très bien comme ça.
Moi, j'aurais une autre question à vous poser. Je me mets en présentateur 2 secondes. C'est sur un truc qu'on n'a pas encore évoqué, sur l'aspect du choix de personnage. Dans le 1, donc, on incarnait Corvo. Dans le 2, on a au choix la possibilité d'incarner soit Corvo, soit Emily. Je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Moi, personnellement, je trouve que le jeu, il est taillé pour Emily, que ce soit en termes d'histoire, de gameplay, et j'ai presque l'impression qu'ils n'ont pas assumé cette idée d'aller au bout, de proposer uniquement un personnage féminin comme Emily, et que Corvo, c'était un peu la solution de sécurité, en mode, bon, on va essayer quand même de pas décevoir les fans de la première heure. Je sais pas ce que vous en pensez.
Bah, c'est complètement ça. Je sais pas à quel point au niveau de la ligne éditoriale la décision s'est prise de mettre les deux ou si c'était là depuis le début. Mais t'as ce côté, ça fait penser à Ubisoft un petit peu où c'était avec Odyssey où ils avaient eu ça. Tu peux avoir le choix du personnage mais qui n'impacte en rien pour le coup l'histoire, mais là ça impacte un peu. Mais comme tu dis, c'est que c'est quand tu fais les deux runs, quand tu les as fait, t'as tellement l'impression que tout est fait pour Emily et que c'est parfait comme ça et que ça aurait pu juste être, c'est l'épisode 2 voilà une autre histoire. Je sais pas dans quelle mesure c'est, on garde quand même Corvo parce que c'est un côté rassurant, on garde quand même Corvo parce qu'il faut donner la capacité d'incarner un mec dans le jeu. Je pense pas que ce soit ça, j'espère pas que ce soit ça en tout cas. Mais c'est... ça, je suis d'accord avec toi, c'était pas nécessaire, ça aurait quand même été un super jeu. Et même quand tu regardes des... j'ai pas mal regardé de speedrun aussi pour préparer le podcast. C'est souvent Emily qui est choisie au début, en tout cas, pour le coup, mine de rien. Je sais pas si c'est... Je pense pas que s'il y a un gros impact au niveau des pouvoirs ou quoi, mais au niveau du choix des joueurs, tu vois.
Ouais. Sur la téléportation, je pense que son pouvoir de téléportation permet d'aller beaucoup plus loin que celui de Corvo. Donc ça m'étonne pas qu'elle soit choisie.
Ouais, tu vois, ça peut expliquer, mais ça revient souvent quand même, ouais.
Et puis il y a aussi le fait de pouvoir récupérer les objets à distance aussi, je pense qu'il peut aider pour la speedrun. Ouais. Genre récupérer une rune, la rune qui est dans la cuisine, dans le niveau 3, je crois. Mais ouais, du coup, pareil, c'est Emily. Moi, c'est pareil, c'est Emily. Mais comme je te disais, j'ai lu un truc comme quoi qui disait que Corvo a une voix, parce que dans le premier Dishonored, il était muet, et qu'ils ont donné une voix quand ils ont décidé que Emily serait aussi jouable. Donc ça impliquerait que Corvo était le premier choix dans l'idée d'un Dishonored 2. Mais d'un autre côté, il y a aussi le fait que Dishonored 2 a reçu une très bonne couverture médiatique à son annonce, parce que justement, on incarnait Emily. Donc,
ouais, c'était elle qui apparaissait dans les trailers. Ouais.
Pour revenir à ce que tu dis, après, peut-être qu'au stade conceptuel, Corvo était le personnage envisagé, et qu'après, ils ont basculé à un moment donné, et qu'après, s'est posé la question, du coup, est-ce qu'on garde Corvo en personnage jouable ou non ? Et le choix éditorial de dire garder la possibilité de jouer un homme, elle ne m'étonnerait pas beaucoup dans le contexte de l'époque, hein. Enfin, ce qui s'est passé sur Assassin's Creed Odyssey, on l'a pas reprécisé en détail, mais c'est globalement Cassandra était le personnage jouable, et par peur, on va dire, que ça ne plaise pas, on va dire, à une frange d'une partie des joueurs, ils avaient fait le choix de proposer un homme, et c'était posé le même problème sur Assassin's Creed Valhalla. Et au final, c'était dû à des décisions éditoriales. Est-ce que c'est le cas sur Dishonored? Honnêtement, c'est un peu difficile à dire. Au final, je trouve pas ça trop gênant, dans le sens où finalement, ça t'offre encore plus de possibilités, en tout cas de variations, on va dire, avec les pouvoirs de Corvo. Le pouvoir de téléportation est moins important, on peut pas attirer les objets vers nous, par exemple. Donc, toutes ces petites variations, vu que ça apporte en plus des nouvelles possibilités, et que c'est pas juste un choix de forme, on va dire, de skin, mais que ça va au-delà de ça, et qu'au final, ça rentre dans cette logique d'immersive sim, d'expérimenter, etc., je trouve que c'est pas trop gênant. Mais la question se pose. Je serais curieux d'avoir la réponse.
Mais c'est vrai. Et puis en plus, enchaîner, si tu enchaînes Dishonored, passer du 1 avec Corvo, donc faire un jeu de 8-10 heures avec un personnage, et refaire le 2, 8-10 heures avec le même personnage qui a plus ou moins les mêmes pouvoirs, c'est vrai que moi, je préfère mieux.
C'est ça. J'en ai parlé en stream. Moi, j'aurais trouvé ça intéressant si, quand tu commençais avec Corvo, tu avais eu certains pouvoirs déjà débloqués. Où là, ça aurait été intéressant, ça aurait eu un intérêt de le prendre en se disant, j'ai un petit peu d'avance, vu que c'était le personnage du 1, et du coup, peut-être développer d'autres pouvoirs, parce que là, vraiment, on repart de zéro avec Corvo, et on redébloque exactement les mêmes pouvoirs, avec des petites variétés, des petits trucs en plus, mais c'est les mêmes pouvoirs que dans le 1, quoi.
Mais, j'ai pas souvenir, mais il a toujours sa marque au début du 2, Corvo ? Ou il la perd à la
oui,
fin du 1 ?
Oui, il l'a toujours, et il la perd à cause de Delilah. Et il la récupère derrière avec
ouais, c'est la justification scénaristique pour dire qu'il a perdu ses pouvoirs.
Voilà,
Ah, on peut le voir aussi comme ça marche avec le côté immersive sim. Dans le côté, c'est t'as le choix jusqu'au bout du truc de pouvoir choisir les deux personnages, mais c'est, je sais pas, ça fait un poil facile. C'est pas dérangeant. Dans le jeu, au final, t'as quand même le choix, donc. La run d'Emily est mieux, prenons Emily, tu vois, mais c'est quand même éditorialement, cool. C'est intéressant de se poser la question, ouais.
Mais les pouvoirs d'Emily font beaucoup penser au pouvoir du Darkness, du comics de Garcenis. Je sais pourquoi. Okay.
Je connais pas.
Tu connais Darkness ?
Non, je connais pas. Je parle pas non plus. Désolé, Axel.
Top, et je pense qu'avant de passer sur un petit peu la partie ouverture, quitte à finir sur l'immersive scene, on a un peu parlé du Clockwork Mansion, du manoir de Jindosh. On peut mettre une petite emphase là-dessus, tant il est devenu iconique. Il me semble qu'il l'avait reproduit pendant un des E3, même pour le coup. Enfin, je revois une interview de Dinya Bakala, qui était dans le manoir qu'ils avaient reconstruit là-bas. Ça représente l'immersive sim, ça représente Dishonored, je pense, assez globalement. Est-ce qu'il y en a un qui se sent de présenter un petit peu le contexte du manoir pour qu'on revienne dessus ?
Je pense qu'on peut parler un petit peu. Je pense qu'on peut parler un petit peu du manoir, mais également du niveau déchireur dont on a déjà parlé quelques fois, parce que c'est les deux niveaux iconiques du jeu. Alors, il y en a plein d'autres bien. Honnêtement, ils ont tous un côté technique, mais du coup, je vais laisser Lodic développer parce que ça a l'air d'être deux niveaux qui lui parlent bien, quoi.
Le Clockwork Mansion, son nom en anglais, donc le manoir de Jean Doche, ceux qui ont fait le jeu en français. Donc, il avait été montré dans plusieurs trailers. Du jeu. Et donc l'idée, c'est un manoir, du coup, une habitation avec deux modes différents. C'est-à-dire que vous arrivez dans la première pièce, c'est un manoir assez luxueux, vous avez un levier, vous activez ce levier, et bien les meubles autour de vous vont commencer à disparaître dans le sol, à s'interchanger, et vous avez une toute nouvelle pièce qui va apparaître. Ce qui est assez fort, c'est que très tôt dans le développement de ce niveau, ils se sont dit, bon, on veut avoir ces deux versions, donc cette version loft qui s'interchange, ces pièces qui tournent, mais on veut aussi permettre aux joueurs d'aller dans le backstage, c'est-à-dire d'aller dans les couloirs, dans les coursives en quelque sorte, dans l'envers du décor, et de voir comment les pièces s'interchangent entre elles. Et donc, c'est un chef-d'œuvre. Moi, c'est un des plus beaux niveaux qui ait jamais été créé dans le jeu vidéo, je pense. On peut quand même citer les noms qui sont derrière, c'est Dana Nightingale et David Di Giacomo. Donc Dana Nightingale qui, du coup, est vraiment devenu très connu pour ce niveau, justement. Elle avait déjà travaillé sur le premier Dishonored. Et c'est aussi le niveau dans lequel apparaissent, alors ils sont teasés dans l'introduction, mais c'est le niveau dans lequel apparaissent les soldats mécaniques. Du coup, qui sont assez impressionnants, qui à la base avaient été pensés, donc je voyais ça dans le making-of, qui avaient été pensés pour être quasiment invincibles, c'est-à-dire que tu te faisais vraiment défoncer. Et à la demande de Dana Nightingale, du coup, elle a demandé à ce que ce soit possible de les affronter, de pouvoir les gérer en leur faisant des attaques aériennes, ce genre de choses. Donc c'est plutôt intéressant, je vous invite vraiment à aller regarder, vous trouverez sur YouTube facilement, pour ceux qui nous écoutent, le making-of de ce niveau. C'est hyper intéressant d'entendre par exemple que la voix de Jean Doche est inspirée de Shodan dans System Shock. Voilà, il y a plein de petites anecdotes comme ça intéressantes, mais je vous laisse dire un petit peu vous ce que vous en avez pensé, les copains.
Ce qui est impressionnant, c'est que d'un point de vue architectural, vu qu'on a accès à toutes les backstage et qu'en fait c'est un niveau ouvert, on se rend compte à quel point... Tout est cohérent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un côté magique dans le jeu vidéo avec une salle qui remplace une autre. Mécaniquement, les murs bougent, etc. Et je pense que ça a dû être un casse-tête par moment pour arriver justement à tout faire rentrer dans cet espace qui est quand même réduit. Tu as quand même deux maisons en une, donc pour arriver à tout caser, quoi. Et ce qui est impressionnant, c'est que d'un point de vue architectural, c'est complexe, mais du coup, ça t'offre plein de possibilités. T'as globalement une voix quand même que moi, à chaque fois, même si ça fait un moment que j'ai pas fait le jeu, je refais toujours parce que c'est la plus facile. Mais en expérimentant grâce aux sauvegardes rapides, on peut se rendre compte que du coup, il y a quand même d'autres possibilités, etc. Et que c'est un niveau qui est très intéressant pour ça. Parce qu'il te permet de... Enfin, quand tu le fouilles de fond en comble, il est fascinant. Je suis d'accord avec toi.
Mais c'est vrai qu'au niveau des différentes possibilités, moi là, j'en ai découvert une que je connaissais pas. Qui te permet vraiment d'atteindre le laboratoire de Jean Doche, mais en deux minutes, montre en main, si vraiment au moment du changement de pièce, tu prends vraiment le bon couloir, tu peux enlever le truc d'huile de baleine et du coup désactiver le portail foudroyant et t'arrives hyper vite au laboratoire de Jean Doche. Et genre, j'étais là, mais what, j'ai fait le jeu 15 fois et j'avais jamais découvert cette possibilité de le faire comme ça. Donc ouais, ça c'est vraiment cool, ça rejoint ce côté multiple possibilités qu'on évoquait. Et comme tu disais, Stéphane, le fait mécaniquement de voir les pièces bouger, mais comme tu disais, j'imagine même pas le nombre d'itérations, le casse-tête que ça a dû être pour caler tout ça dans un si petit espace, comme tu dis. C'est vraiment impressionnant, vraiment impressionnant.
Et puis il y a un côté vraiment émerveillement la première fois qu'on y est. C'est quand tu vois, quand tu comprends le concept du truc, je me revois pour le coup expérimenter à tirer les leviers dans tous les sens, à monter, à descendre. Où t'as vraiment ce côté-là, ça fonctionne, mais bordel, c'est un vrai côté, c'est un labyrinthe pour le coup. C'est ce qu'on notait, c'est qu'il y a plein d'itérations possibles. Ils ont fait plein d'itérations de toute manière pour arriver jusqu'à ça. Moi, je serais tellement curieux de voir tous les QA, tous les tests qu'ils ont pu faire avant pour arriver jusque-là.
Et ce qui est marrant, c'est qu'ils se sont servis de ça pour Prey, pour l'intro de Prey. Après, je crois que c'est sorti un an après.
C'est vrai. 2017, ouais. Deux ans après.
Ouais, donc c'est vraiment qu'ils ont pris ça pour essayer de.
Après, à quel point ils s'en sont resservis, c'est difficile à dire, parce que. Parce que Dishonored, c'est développé par Arkane Lyon, là où Prey, c'est développé par Arkane Austin.
Mais je crois que, pour l'avoir vu il n'y a pas longtemps, là, je crois que Dana Nightingale a aussi bossé sur Prey.
Ah, donc d'accord,
peut-être
ok.
Peut-être bon, que ça vient de là.
Effectivement, ceci expliquerait cela.
Je vérifie, mais je crois bien que j'ai vu ça, ouais. Donc ça expliquerait, ouais. Ouais. Mais il y a des moments absolument incroyables dans ce niveau, hein, parce que là, on a parlé du début où tu actives les premiers leviers. Mais quand t'arrives dans la chambre de Jin Doge et qu'il a cette espèce de chambre rotative où bah un coup t'as la salle de bain, un coup t'as son bureau, voilà il y a trois espaces. Et dans le making of, ils expliquent que c'est à ce moment-là où ils ont carrément caché des pièces. Si mettons tu actives le levier, tu vas te caler sur une plateforme qui est en train de bouger. Bah possiblement ça va t'amener dans une petite pièce secrète. Voilà, hyper compliqué à trouver, où tu vas trouver un charme d'os ou une rune, je sais plus. Et à la fin du niveau, donc sur la solution non létale pour le tuer, là, qui consiste à le mettre dans la machine à électrochoc, bah, t'as ce fameux atelier qui s'interchange. Il faut du coup, je me souviens plus exactement, mais parce que là, je l'ai pas refait comme ça, je l'ai tué direct, du coup. Donc j'étais sur ma dark run. Mais si tu veux le tuer de façon non létale, il faut mettre les bons ateliers pour générer l'énergie suffisante pour la machine à électrochoc. Un truc comme ça, et là encore, c'est super bien fait de voir les différentes pièces coulisser entre elles. Voilà, un niveau inoubliable.
Et puis ils ont poussé les trucs jusqu'à pouvoir voir les coulisses du niveau. Pour le coup, selon comment tu te mets, tu peux vraiment te mettre... Au niveau de la chambre, tu le vois bien, comme tu disais, tu passes derrière, tu vois vraiment tous les vérins s'actionner, tu vois vraiment toute la mécanique du truc. Tu sais, tu te dis qu'il y a vraiment une maquette qui existe quelque part avec laquelle ils ont testé physiquement pour voir si ça rentrait, si ça marchait et tout, quoi.
Ça fait penser un peu au théâtre où tu serais... on va dire dans l'arrière-scène et où tu verrais du coup les acteurs, on va dire, et ça rend, ouais, ça donne un côté assez unique. Moi, je pense que j'ai jamais vu ça, honnêtement. Et c'est quelque chose qui montre, bah, de toute façon, c'est deux niveaux références, mais particulièrement celui-là. Ça montre tout le savoir-faire d'Arkane en termes de level design et ce qu'ils savent faire, c'est assez énorme, objectivement.
Et ça marche complètement, ce côté théâtre, coulisses de théâtre dont tu parles, parce que justement, Jin Doge, il est complètement dans ce move spectacle, en fait, où il est en démonstration à regarder. C'est une exposition, en fait, son manoir. Donc, le fait d'aller dans les coulisses, ça marche encore deux fois plus à cause du caractère du personnage. Je sais qu'il y a un moment où il y a un couple dans le niveau qui est là, un couple de visiteurs qui est là justement pour visiter le manoir. Parce que Jin Doge cherche à vendre ses soldats mécaniques au plus offrant. Et donc, ça rejoint complètement ce côté un peu exposition du niveau. Et d'ailleurs, quand tu arrives, normalement, le couple de visiteurs, ils sont là pour Jin Doge, il doit venir les voir pour leur présenter le manoir. Et au moment où Emily arrive, ou Corvo, du coup, bah, il les oublie complètement. Et du coup, ils sont là, ils sont perdus dans une pièce. Tu peux les faire bouger en faisant monter, baissant leur pièce. C'est assez marrant, quoi. Parce qu'ils ont évidemment des réactions hyper cohérentes en mode, mais où est Jin Doge? Qu'est-ce qui se passe? C'est hyper bien fait.
Non, clairement, c'est un des meilleurs niveaux. Puis c'est pour ça, en tout cas, qu'on s'en rappelle. En tout cas, du jeu même de Arkane, hein, c'est vraiment devenu leur patte. Puis je pense qu'on va servir de ça doucement pour glisser vers la dernière partie un petit peu de ce podcast qui va nous servir d'ouverture. C'est Dishonored 2, ça reste leur dernier jeu qui a eu un succès, en tout cas retentissant comme ça. On est déjà à 2016. Leurs deux derniers jeux en date, on va être sur Deathloop et malheureusement... j'en oublie son nom pour le coup.
Redfall.
Merci messieurs. qui s'oublie, voilà, ça, je pense que c'était un petit peu inconscient, mais voilà. On est sur quelque chose de très différent, et surtout, au moment où on enregistre ce podcast, maintenant on est en janvier, on a eu l'annonce de Blade, qui je pense, autour de la table, personne n'a vu ça spécialement venir.
Ah non, c'était inattendu.
Tant c'est le côté... Checkment, en tout cas, ce qui m'avait... C'est pas tant choqué, mais les surpris, c'est qu'ils fassent une licence, là où ils étaient forts pour proposer des trucs ultra originaux quoi, à chaque fois, Deathloops. On peut en penser ce qu'on veut, ça restait quand même un monde à part. Je crois qu'il y avait des théories comme quoi c'était dans le même univers que Dishonored, mais juste un peu plus tard. Mais
c'est dans le même univers.
T'avais ce côté fort, et là, Blade, il y a... Bah, faut commencer en tout cas sur la partie un petit peu ouverture avec ça, ne serait-ce que sur Blade. Je sais que je suis un peu partagé, parce que moi, Blade, c'est un des premiers comics où j'ai vraiment plongé. Genre vraiment après les films, après Blade 2 de Del Toro, c'était le moment où je me dis « Ah, les comics, ça existe !» Et habitant dans le Vaucluse, c'était compliqué d'en avoir. Mais du coup, les premiers comics sur lesquels je me suis penché, moi, ça a vraiment été les Blade. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Je comprends pourquoi ils sont allés vers lui, parce que t'as le côté où, pour le coup, il y a un énorme lore derrière Blade. C'est un personnage qui date des années 70, qui appartient à Marvel, pour le coup. Ça, on le sait maintenant, mais c'est à l'époque de Del Toro, c'était un peu moins courant de se dire que c'était parti. Il faisait partie du même monde que les super-héros, Iron Man, etc. Mais il a un lore qui est monstrueux. C'est un personnage qui est ultra grossier, qui est vulgaire, qui est un... Là, pour donner un petit peu le contexte, c'est un demi-vampire, du coup, qui a tout... En tout cas, dans les films, qui a quasiment toutes les forces des vampires sans avoir leur faiblesse, à part cette envie, du coup, de sang. Mais il peut marcher au soleil, il a cette super force, il vieillit moins vite. Il est pas immortel, mais il vieillit moins vite. Au niveau d'Arcane, pourquoi il s'intéresserait à ça? Bah, en dehors du lore, c'est qu'il a un arsenal. Bah, il a une épée qui est iconique, il utilise des flingues. Donc tu vois tout de suite comment ils peuvent utiliser le personnage, en tout cas. C'est vis-à-vis des vampires, tu peux avoir tout le côté moral qui est là. Pour le coup, qu'est-ce que tu fais des vampires? Qu'est-ce que tu fais des créatures que tu rencontres? Mais ça reste une licence. Là où ils sont forts, moi je trouve Arcane, c'est sur leur côté, ils sont libres. Bah, tout ce qu'on dit depuis le début, en fait. D'avoir mis Immersive Sim en place à ce point, d'avoir pu invoquer toutes les influences artistiques qu'ils voulaient à ce point. Là, je ne sais pas dans quelle mesure ils vont se retrouver avec un cahier des charges avec Blade et à devoir se dire bah, il va falloir qu'on respecte ça tout en imposant notre patte. Ça peut faire un jeu... En fait, j'arrive pas à me dire que ça peut faire un jeu ultra marquant à la Dishonored. Je ne sais pas ce que vous en pensez, par exemple, sur Blade. Vas-y, Axel.
Déjà, moi, j'ai eu deux surprises. C'est déjà qu'ils travaillent sur Blade et après que ce Blade-là se passera à Paris. J'avoue que ça me plaît. Et il y a la troisième surprise que je viens d'apprendre en regardant la fiche de Dana Nightingale, que ça sera un TPS. Enfin, tout du moins que ça sera un jeu à troisième personne. Et ça sera le premier jeu à troisième personne de Arcane. Donc j'aimerais bien voir comment ils vont faire ça. Parce que pour l'instant, Arcane Austin est un peu dans le mal depuis l'échec de Redfall. Mais c'est vrai que pour l'instant, Arcane Lyon, c'est quand même sous la qualité de noblesse à tel point où est-ce que quand les gens disent « Oui, mais Arcane a fait un jeu de merde avec Redfall », les gens disent « Non, non, c'est Arcane Austin. Arcane n'a pas fait de mauvais jeu. C'est juste Arcane Austin qui a fait un mauvais jeu. »
Ça, l'antenne, c'est Austin, c'est ça qui est fou.
C'est les gens, c'est pas vraiment les deux. C'est genre, c'est quoi le prochain jeu d'Arcane? Oui, c'est Arcane Young qui fait le prochain jeu. C'est intéressant. Tu vois, donc, il y a aussi ça, moi, que je me pose comme question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire aussi avec la troisième personne? Étant donné que c'est depuis Arx Fatalis, c'est de la première personne, quoi.
C'est une question intéressante que tu poses, Axel. Moi, j'aimerais juste avant rebondir sur ce que tu disais, Julien, le fait qu'ils utilisent une licence. Le truc, c'est qu'en fait, si tu reprends l'historique depuis Dishonored 2, Dishonored 2, malgré le succès critique et le succès d'estime, c'est globalement un échec commercial de ce qu'on en sait. En tout cas, on sait qu'il n'a pas autant marché que le premier à minima. Pour une suite, c'est un peu dommage pour un épisode 2, on va dire. Et Deathloop, en fait, avait essayé d'apporter une réponse en apportant une touche un peu plus grand public avec une dimension déjà action. Et en plus, avec cette structure en fait, de boucle temporelle, permet qui apporte une nouvelle manière d'expérimenter, etc., et d'enlever le côté punitif en fait, du choix, au sens de, en fait, vu que tu es dans une boucle, tu pourras tout expérimenter dans ta run et voir toutes les possibilités, toutes les variations qu'ils ont fait. Donc ça, c'était une première idée en termes de concept, on ne sait pas à quel point le jeu a marché, mais Blade, c'est peut-être aussi une manière de répondre à ça. Ils vont se donner des contraintes du fait que c'est une licence connue. Mais d'un autre côté, vu qu'ils utilisent un nom connu, ça peut peut-être leur aider, on va dire, à trouver un compromis, à pouvoir rester dans cette philosophie d'immersive sim. C'était un petit peu perdu avec Deathloop, tout en arrivant du coup à proposer un jeu profond en termes de gameplay. Ouais, s'ils arrivent à garder ce côté immersive sim malgré quelques contraintes d'univers, je pense qu'ils ont réussi leur pari. Le truc, c'est que l'immersive sim... globalement, en tout cas pour Arcane, ça a toujours eu du mal à marcher. Alors, pour moi, ça tient aussi du fait que Bethesda a toujours mal marketé ses jeux, pas comme il fallait, on va dire, pas suffisamment sur les possibilités offertes, alors que c'est ça le cœur du jeu. Enfin, on va pas refaire le débat, notamment de la communication de Deathloop, qui était en plus totalement incompréhensible. Enfin, globalement, quand tu vois que Dinga Bakaba est obligé de faire un petit schéma avec un tableau pour expliquer comment ce qu'était le jeu, c'est qu'il y a eu un loupé quelque part, quoi. Mais en tout état de cause, c'est intéressant parce qu'en plus, on n'en parlera pas, mais en plus, il y a eu des leaks qui donnent des perspectives intéressantes. Donc moi, je suis très curieux déjà pour ce projet, mais aussi pour la suite d'Arcane, parce que tu sens que malgré le fait qu'ils ont été un peu en difficulté peut-être en termes de succès commercial, ils sont toujours soutenus par Bethesda et puis maintenant Microsoft, et que j'espère, on va dire, qu'avec l'impact, la force de frappe de Microsoft, ils pourront garder leur liberté créative au maximum, après Blade, en tout cas à minima, et que ça leur permettra, pourquoi pas, un jour, de nous proposer un nouvel épisode de Dishonored, parce que j'aimerais qu'ils reviennent sur cette licence. Et pour moi, c'est leur bébé et j'ai bon espoir qu'ils reviennent dessus.
Moi, pour faire simple, j'ai jamais trouvé qu'ils étaient bons dans l'action. Notamment dans Dishonored, je trouve que la partie combat, c'était pas forcément la partie la mieux réussie. Alors oui, tu pouvais toujours expérimenter, faire des trucs de fou, mais c'était pas là, je trouve, qu'il brillait. Et donc, forcément, quand t'es arrivé Deathloop, quand t'es arrivé Redfall, qui sont des shooters beaucoup plus orientés action, moi, je trouve que ça marchait pas. Alors, Deathloop, pour moi, il survit via son concept, qui est incroyable et dont Stéphane a parlé, qui est la boucle temporelle. Mais en dehors de ça, son aspect action, son aspect shooter, je le trouve absolument pas transcendant. Donc, je trouve qu'ils se sont un peu perdus sur Deathloop et Redfall. Je peux le comprendre dans le sens où tout ce qu'a expliqué Stéphane, l'aspect immersive sim de Dishonored, d'infiltration, commercialement, ça marchait pas de fou. Donc, peut-être essayer d'aller voir ailleurs. Pour autant, Redfall, là, c'était beaucoup trop éloigné de ce qu'ils font, un truc multi, jeu service. Bon, on sent que c'était une demande, bien sûr, mais c'était pas taillé pour eux, quoi. Donc ça ne pouvait être qu'un échec. Surtout vu comment ça s'est, ils ont pas été trop soutenus derrière. Mais non, voilà, je trouve qu'ils se sont un peu perdus et du coup, Blade, je le vois comme un retour à ce qu'ils savent faire. Voilà, ils ont acquis une certaine expérience au niveau action avec Deathloop et Redfall qui va leur être bénéfique de toute façon pour Blade, c'est sûr. Mais ça peut être aussi l'excuse de revenir à un petit peu d'infiltration, à revenir à de l'immersive sim un peu plus pur et dur. Donc voilà, moi c'est mon espoir de les voir revenir à ce qui fait leur force. Après, et ça on peut le dire aussi, il y a quand même des grands noms qui sont partis de Arkane. Ouais. Cole Antonio, il est parti, tous les pontes sont un peu partis. Dinga Bakaba, c'est un petit peu l'héritier restant de ce qu'était Arkane à la base. Donc peut-être qu'aussi à un moment, il faut accepter que les têtes pensantes derrière Dishonored, tout ça, elles sont un peu parties ailleurs et que c'est normal aussi que le studio il essaie d'explorer d'autres horizons, quitte à ce que ça nous plaise peut-être un peu moins. Et donc, je suis curieux, mais voilà, on verra.
Mais par rapport au départ, même s'ils arrivent à revenir, même si on va dire ils restent dans la sphère, on va dire, d'influence de départ, effectivement, quand tu as des grands noms qui partent, il faut aussi le temps de reconstituer aussi une équipe expérimentée, capable aussi de proposer des choses. Moi, Deathloop, c'est quand même un jeu que j'ai beaucoup aimé, parce que tu l'évoquais, Ludic, son concept. Mais ouais, effectivement, moi, ce que. Là, le gros reproche que je lui fais, c'est que en voulant donner un côté action, il pousse ça au détriment de l'infiltration, en faisant un aspect action qui n'est pas non plus phénoménal. Donc, au final, on se retrouve avec quelque chose d'un peu plus moyen, là où Dishonored 2, par exemple, brillait énormément par son gameplay, ou même Prey.
Et pour corriger petite bêtise que j'ai dit, Dana Nightingale n'a pas bossé sur Prey, d'ailleurs. Elle a bossé sur Deathloop, et bonne nouvelle, elle a bossé aussi sur Marvel's Blade. Voilà, petite correction.
Et d'ailleurs, tu fais bien de rappeler parce que j'aurais dû capter que Blade, enfin, Redfall est avec les vampires et Blade c'est avec les vampires. J'aurais dû faire un rapprochement et que je me demande s'ils vont pas reprendre l'idée de Redfall que moi j'aime beaucoup, de devoir tuer physiquement le vampire au corps à corps ou avec une arme à pieu à distance. Moi, c'est un élément que j'ai beaucoup aimé dans Redfall et que pour moi, de toute façon, Redfall a une base. On va dire, il y a des idées solides à l'intérieur, mélangées dans un marasme de trucs. Jeu service qui n'est pas un jeu service, j'ai pas compris le délire. Et puis Blade, comme tu l'as dit Julien, c'est qu'il y a un lore très riche derrière, parce que t'as déjà l'histoire du personnage de Blade, genre, en plus c'est quoi son vrai nom, qui est une allégorie des enfants afro-américains métis, mais parce que c'est il est mi-vampire, mi-humain, mais il est accepté par aucun des deux. Bon après, je sais pas si dans le comics... il existe son père adoptif, je ne vois plus son nom.
Continue au pire, je le retrouve.
mais il y a leur fourni avec des divinités et tout ça. Donc je pense que ça peut permettre à Arkane de revenir. Et puis en plus, avec ses gadgets, il y a moyen d'utiliser l'expérimentation. Donc il y a moyen aussi de. Justement, je crois que c'est Stéphane qui disait ça, ou Ludic. Qui disait qu'il y a moyen que, justement, grâce à une licence aussi grosse, qu'ils mettent en avant leur savoir-faire, et que là, ils aient le public, parce que le public irait pour la licence, et pas forcément pour eux, et qu'ils découvriraient aussi derrière les développeurs en voulant découvrir une licence.
Moi, j'espère vraiment que Arkane, un peu à la manière de From Software, ils vont arriver à un moment donné à percer et à casser cette barrière qu'ils ont pour vraiment que ça, qu'on passe d'un jeu presque de niche, on va dire, qui fait touche que quelques millions de personnes, alors que c'est déjà pas mal, hein, et qu'on arrive à des jeux ultra populaires, parce que pour le coup, ils le méritent. Et moi, c'est ce vers quoi j'ai envie que tend le jeu vidéo. J'adore les jeux narratifs, encore une fois. Hein, moi, j'ai toujours adoré les Last of Us et tous ces jeux-là. Mais le jeu vidéo, c'est aussi le gameplay. Et pour le coup, dans l'école du gameplay, tous les immersive sims, c'est des excellents élèves. Et j'ai envie que ces jeux soient plus mis en avant et plus joués parce que c'est des jeux qui font grandir le médium.
Et puis surtout, Arkane, c'est assez incroyable parce qu'Arkane, hormis Redfall, tous leurs jeux sont des succès critiques et d'estime depuis Arx Fatalis. Là, Arx Fatalis, je l'ai testé pour la première fois aujourd'hui. Et c'est vrai que il est bon. Un Dungeon Crawler en 2002, ça peut paraître bizarre, mais il est très bon, ce jeu. Et pareil avec les jeux qu'ils ont fait après, quoi.
Rendons honneur quand même à Deathloop, qui, comme tu dis, je crois, était le jeu le plus nommé dans pas mal de cérémonies l'année de sa sortie, hein, qui a raflé quand même pas mal de palmes. Donc ça veut dire quand même quelque chose, peut-être pas incroyable commercialement parlant, mais quand même un vrai succès. Donc non, et c'est marrant, je trouve qu'on peut faire un petit peu en parallèle entre ce qui se passe chez Arkane et ce qui se passe chez Rocksteady en ce moment, où beaucoup de grands noms du studio sont partis et à un moment c'est parti sur du jeu de service et ça a l'air de se casser un petit peu la gueule. Donc voilà, je trouve parallèle intéressant à faire entre les deux. Bah, j'espère évidemment que l'issue sera heureuse pour Arkane et pour Rocksteady aussi, bien sûr, dans le futur.
Puis t'as le côté avec Arkane où ça donne l'impression que c'est presque le studio arty de Bethesda, tu vois, où t'as l'énorme Starfield qu'on a eu cette année. Je pense que tout le monde aurait dit c'est Bethesda qui fait Blade pour foncer les sourcils, c'est Arkane. Tu vois, c'est pas le même délire. Surtout la bande-annonce marchait vraiment bien. Non, ça se trouve, on aura un espèce de Hitman au final avec la côté troisième personne, avec des possibilités folles. Bon, on va revenir dessus, mais ça, avec les vampires, tu peux imaginer des pièges pour les foutre à la lumière, les tuer au pieu, les tuer avec des armes en argent, tu pourrais faire toi-même tes balles, enfin, je pense clairement qu'il y a de quoi faire. Mais, en tout cas, ouais, comme on disait, je pense qu'on va conclure doucement. L'avenir est chouette, puis en tout cas, on a une chouette attente à avoir. Pour le coup, c'est pas comme si on savait pas sur quoi ils se décidaient, ou s'ils partaient vers du Dishonored 3, là, on a un titre nouveau pour eux, avec une nouvelle façon de l'approcher. On espère en tout cas que le podcast vous aura plu. On a abordé pas mal de points qu'on trouvait en tout cas intéressants dans le Dishonored 2. Bah, l'immersive sim, hein, forcément, comme on disait, mais aussi toute l'histoire qu'il y a autour, les influences artistiques, un petit peu, tout ça. Donc, ouais, on espère que le podcast vous aura plu. N'hésitez pas aussi à nous laisser soit des commentaires, soit des étoiles, selon les applications, notamment sur Spotify et Apple. C'est pénible de dire, mais c'est des petites choses comme ça qui ça aide pour les référencements, ça aide aussi à faire découvrir notre contenu à des gens qui ne nous connaissent pas forcément. Et chose qu'on dit pas forcément aussi, on a un Discord, on s'aperçoit qu'on a une petite différence de personnes entre nos followers et effectivement le Discord. On parle, il y a toujours quelqu'un pour parler toute la journée, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en tout cas, puis on parle aussi un petit peu du podcast. Je vois les sourcils qui se lèvent, mais il y a toujours quelqu'un sur le Discord. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup si vous êtes arrivés jusque là, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. À bientôt tout le monde.
Salut.
Bye bye.
Salut, à bientôt.